vous avez tout compris. S'il y a quelque chose qui reste pour vous obscur, n'hésitez pas.
Je peux vous poser une question.
Voilà.
Alors j'aimerais savoir, pour prendre autorité, est-ce qu'il faut absolument avoir atteint la cinquième demeure? Et si on n'est pas dans la cinquième demeure, est-ce qu'on peut prendre autorité? Voilà ma question.
C'est la seule obscurité qui règne dans l'assemblée. La seule, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre.
J'ai une autre petite question, pas par rapport à ce que vous avez dit, mais je reçois un papier où on me dit « maître extraordinaire ». Je ne sais pas ce que c'est qu'une maître extraordinaire, un maître ordinaire.
Oui. Oui, c'est ça, c'est depuis le motu proprio du pape Benoît XVI, désormais, depuis 2007, les prêtres peuvent célébrer partout dans le monde des messes de rite latin, c'est-à-dire par exemple celles à laquelle vous êtes habitués, nous sommes habitués depuis 1970, même s'il n'y a pas de latin dedans, c'est quand même une messe de rite latin. Mais désormais, la messe de rite latin, depuis pape Benoît XVI, a deux modes d'expression. Donc la messe est toujours de rite latin, c'est toujours la messe romaine. Elle peut être de mode ordinaire ou de mode extraordinaire. Quand elle est de mode ordinaire, c'est celle que nous célébrons ensemble, c'est une messe de rite latin, c'est-à-dire romaine, unie au Saint-Père. Mais, voyez, avec la prière eucharistique, 1, 2, 3 ou 4. Sans que cette nuit, sauf erreur, on a célébré la 2 et ce matin la 3. Ça, c'est les messes de rite latin de mode ordinaire. Mais si je vous célèbre la messe de rite latin de mode extraordinaire, ça veut dire que c'est la messe de Saint Pie V. Et c'est pas parce que c'est la messe de Saint Pie V que c'est forcément latin. Parce que si je vous dis la messe de Saint Pie V en français, sans aucune parole latine, ça reste la messe de Saint Pie V. Ça va? Donc quand on propose une messe célébrée selon deux rites, dans le rite de mode extraordinaire, parce qu'on dit messe extraordinaire, c'est qu'on a court-circuité les mots. Hein. Il n'y a pas de messe extraordinaire, une messe, et surtout c'est tout extraordinaire, une messe. Mais sur le plan liturgique, elles sont de mode ordinaire ou de mode extraordinaire. D'accord? Quelle différence il y a entre une messe de rite ordinaire et une messe de rite extraordinaire? Par exemple, le canon 1 de la messe de rite ordinaire, c'est quand on dit, voyez, si en plus vous dites en latin, je m'excuse, mais il n'y a pratiquement aucune différence. La seule différence entre le rite ordinaire du canon 1 et du rite de mode extraordinaire de Saint Pie V, c'est que dans le canon 1 du mode ordinaire, on a rajouté Saint Joseph dans le canon de la messe. Et on a rajouté aussi et les impétrations, c'est l'ouverture des clés hein, de l'Église. Pour l'efficacité, la fécondité du sacrifice d'amour de l'Eucharistie, il rajoutait la fécondité du sacrifice d'amour pour faire surabonder l'amour avec la grâce qui correspond dans la période de l'Église qui doit appeler, qui doit mériter le retour du Christ sur la terre. Ça, c'est pas dans la messe de rite extraordinaire de Saint-Pie-Saint. Dans la messe du rite ordinaire, il ne faut pas croire qu'il y ait une dégradation. Il n'y a pas de cause diminuante dans la grâce. Et dans la messe Saint-Pie-V, le pape Saint-Pie-V a engagé aussi l'Église quelque part parce qu'il a dit quiconque rajoute ne serait-ce qu'un mot à la messe de ce rite-là est anathème. Et il a prononcé cette décision par écrit, il a engagé le futur de l'Église. C'est bien que la messe de Saint-Pie V, tu ne peux pas rajouter Saint-Joseph dans la messe Saint-Pie V. Tu ne peux pas rajouter non plus, il reviendra dans la gloire. En attendant son retour dans la gloire, non, tu ne peux pas. Dis bien qu'idéal, c'est de dire ordinairement qu'on retourne, que le Seigneur sacrifie la messe tous les jours, nous obtient de nous le retour du Christ, la parousie, avec Saint Joseph, notre Père, dans la transsubstantiation sacrificielle. C'est extraordinaire, ça permet de faire rentrer la responsabilité dans l'impétration du sacrifice de la messe, et ça fait quantité du point de vue du corps spirituel glorieux quand même. Moi, pour moi, j'estime, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a une supériorité évidente entre la messe de rite ordinaire par rapport à la messe de rite extraordinaire. La supériorité de la messe de rite extraordinaire, c'est qu'au moins on respecte. Il n'y a pas de tentation de déformer ou de manquer de respect. Et on est sûr de sa validité. Tandis que quand on assiste quelquefois à des messes de rite ordinaire, on se demande si c'est valide. Et peut-être qu'à un moment donné, on sera tellement dans l'incertitude de savoir si la messe est valide, qu'il faudra peut-être mieux assister dans le cas où on a le choix à la messe de rite extraordinaire. Si par exemple, c'est le prêtre quand même qui consacre les espèces. Donc, si le prêtre il dit oh, j'ai pas envie de me marier, les gens m'aiment bien, je trouve ça assez extraordinaire parce qu'humainement c'est, on fait vivre quand même le village, le quartier, ça me plaît. Je suis bien payé parce que j'habite en Alsace. Je n'ai un peu de travail finalement que le dimanche. Mais j'ai perdu la foi. Mais je reste curé. J'ai perdu la foi. Ah, mais quand tu célèbres la messe, dans quelle intention tu fais? Puisque il faut avoir la foi pour célébrer la messe dans l'intention de l'Église. Mais si un prêtre, quand il se consacre les espèces, il ne le fait pas dans l'intention de l'Église, la messe est invalide de plein droit. Alors c'est un peu embêtant. Je m'excuse, je ne devrais pas dire ça parce que je vais mettre le doute. Mais il n'y a aucun doute, parce qu'il y a la suppléance de l'Église. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas la présence réelle dans cette messe. Alors, vous avez l'impression de dire, ah ben oui, certainement, le prêtre, là, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Ça se voit qu'il n'a pas la foi. Et donc, vous allez suivre la messe en fonction de vos impressions. Voilà l'erreur. Il ne faut jamais s'appuyer sur ses impressions. Bon, bref, vous voyez la différence qu'il y a entre la messe de mode extraordinaire et la messe de mode ordinaire. C'est très difficile, en vérité, de célébrer la messe. Un prêtre, c'est quelque chose de très difficile. C'est très difficile. Le père Spic, qui était un champion de France du rugby, est devenu dominicain. C'était un grand exégèse sur la charité dans la Bible. Il est très connu. Il était notre professeur. Il disait, quand tu as dit la messe, quand tu as célébré la messe, dans la journée, ça va, tu peux te coucher. Tu as fait beaucoup de travail. Et c'est très fatigué. Il a raison. Il avait raison. C'est vrai, mais c'est, ça demande un très gros travail. Pourquoi? Parce que ça se prépare la veille. Ça se prépare. Et dans l'intensité, ça saisit toutes les forces vitales. Ça implique des exigences. Si tu te laisses aller sur le toboggan assez vite, tu fais plus, tu célèbres plus la messe dans les intentions de l'Église. Quand tu es dans la messe de rite extraordinaire, ça a un avantage, c'est que tu dois respecter la moindre rubrique. Tu fais tout ce que tu peux pour respecter la moindre rubrique. Et tu sais très bien qu'en respectant les moindres rubriques, il ne s'agit pas d'autre chose que du sacrifice de Jésus au Golgotha, réellement présent, substantiellement, corporellement, divinement et humainement. Si tu respectes toutes les rubriques, tu ne peux pas faire autrement que de voir que c'est Dieu vivant dans sa chair qui s'arrache à lui-même dans le sacrifice. La messe est un sacrifice. D'accord ? D'accord. Dans la rite de Castoria, tu ne peux pas célébrer la messe sans voir ce que tu fais. Tandis que si tu célèbres la messe de rite de mode ordinaire, ça demande un effort prodigieux sur le plan mystique, sur le plan la transformation du cœur, parce que les paroles ne sont pas explicites. L'autre jour, j'étais avec des frères de Saint-Jean, que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas la chaise Dieu, comme ça. Personne ne pourra deviner. Et j'assiste comme ça à des frères que j'ai connus, puisque j'étais pendant 7 ans avec eux. Donc on se connaît très bien. Et j'en vois un qui est un vrai saint, que j'aime beaucoup, enfin, c'est un vrai saint. Puis, j'assiste forcément à sa messe. Après avoir dit la mienne et avant d'avoir dit la seconde. Bon. Donc j'assiste à la sienne. Et. Et à chaque fois, je regarde. Et puis au bout de la troisième fois, je dis : tu sais, j'ai une question à te poser. Quand tu dis ceci, et mon corps, livré pour. Avec quelle intention? Parce que j'ai l'impression que tu ne le fais pas avec la même intention que moi. Ben, je sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la même intention. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, ben, voilà, je te pose la question, quelle est ton intention? Est-ce que pour toi l'intention de ceci est mon corps livré pour vous? Livrez-vous à qui? À qui? Aux disciples? Aux gens qui sont là? Et puis tu le fais dans la présence réelle de Jésus prêtre. C'est une personne à Christi. Ah oui, bien sûr, une personne à Christi. Bon, c'est la présence de Jésus prêtre qui dit ceci, et mon corps livré pour vous. D'accord, c'est Jésus prêtre livre, qui parle à travers nous. C'est très bien. Mais Jésus, quand il fait ça à travers toi, il le fait dans quelle intention? Parce qu'il passe par ta foi, ton espérance et ton amour de prêtre. Alors, je n'ai pas explicité tout ça, c'est pour vous que j'explicite la question. Lui, l'expression, je l'ai posée une seule fois. Il a très bien compris ce que je voulais demander. Donc, c'est quoi ton intention? C'est quoi l'intention du sacerdoce, du Christ en toi, à travers toi? C'est quoi l'intention? Est-ce que tu as l'intention? Est-ce que tu penses, par exemple, parce que regardez, dit, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. À la fin du repas, il prit la coupe et il dit, ceci est la coupe de mon sang. Donc, est-ce que tu le vis en présence réelle? La présence réelle, tu vis la présence réelle de quoi? La mémoire de quoi? La présence, la mémoire, ça veut dire la présence réelle, substantielle, personnelle, corporelle, humaine et divine à la fois du Christ. Tu revis quoi? Qu'est-ce qui se revit là? C'est la scène où Jésus est en train de transformer ce pain qui lui est réservé dans son corps et ce vin qui va transformer dans son sang, dans le repas de la scène pour ses disciples. Ou bien, tu vis, Jésus prêtre, vit ses paroles pour opérer à l'instant de la consécration sa mort sur la croix devant tout le monde. C'est le Golgotha ou c'est la scène? Et c'est vrai qu'avec une certaine protestantisation de l'Eucharistie catholique, avec le mode ordinaire, c'est pour ça que le Saint-Père a dit, hop, on va donner maintenant les deux modes, pour qu'ayant les deux modes, on se rappelle quand même que ce n'est pas une mémoriale de la scène. C'est le mémorial du Golgotha. C'est la présence réelle de Jésus qui, sur la croix, il prit le pain. Vous voyez, quelqu'un l'autre jour me dit, mais pourquoi est-ce que vous mettez les deux doigts comme ça? Il met les deux doigts comme ça. Vous n'avez pas remarqué comme les doigts comme ça? Voilà. Jamais un prêtre ne peut prendre l'hostie avec d'autres doigts que ces deux-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux, quatre doigts qui ont été consacrés avec le Saint-Crème. Parce que ces deux doigts seuls sont le passage par lequel, avec l'onction sacramentelle présence réelle du sacerdoce du Christ, opère la transsubstantiation par le toucher. La parole, la vision, l'intention, le toucher, l'eau, la terre, l'air, le feu du sacerdoce. C'est pour ça que normalement, il va pouvoir donner la communion aux gens, parce que seuls les doigts consacrés du prêtre, dans le caractère sacerdotal, ont le droit de toucher Jésus, hostie, victime et but. Quelqu'un qui est laïque, qui n'est pas prêtre, ne peut pas toucher avec ses doigts, et encore moins avec ses mains. Quelqu'un qui communierait avec la main, ça veut dire quelqu'un qui a perdu totalement la foi dans le sacrement de l'ordre. Et il ne sait plus que le sacrement de l'ordre, c'est la capacité du Christ de s'offrir la présence réelle de manière victimale par la séparation de son âme et son corps à la messe. Mais si la messe est un repas, alors je termine avec mon frère. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout. Je dis, alors, tu penses, oui, ceci, il prie, c'était au cours du repas qu'il partageait avec eux. Si tu suis les paroles, sans entrer dans l'intention liturgique et sacramentelle, si tu ne suis que les paroles, ben finalement, au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, ben tu dis, voilà, je vis ce que le Christ vit quand, avec ses disciples, il transforme le corps dans son sang pour se donner en communion. Oui ou non? Et vous, qui êtes des croyants, qui allez à la messe, vous dites, bah oui, c'est la présence réelle de Jésus qui transforme son corps et son sang pour nous le donner en communion. Dans le repas eucharistique. Alors, c'est eucharistique parce qu'on est dans l'action de grâce, la joie, parce que Jésus se donne à nous dans son corps brûlant d'amour en communion. C'est notre nourriture, c'est notre joie, c'est notre force. Alléluia! Alors, elle me dit, bah oui, moi je vis oui, c'est Jésus, prêtre, qui se transforme le corps. Le pain dans son corps, sans pour se donner en communion au milieu de ses disciples. Ah, je dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que tu me soulages? Qu'est-ce que je me sens soulagé? Je lui dis, puisque c'est comme ça, tu peux continuer à donner la communion aux gens sur la main. C'est bon. Ça ne me choque plus, puisque c'est plus la présence réelle. Ta messe est invalide de plein droit. Donc continue, je lui dis, continue à donner la communion sur la main. Ce n'est plus le sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est pas le pain, le corps crucifié du Christ. Les gens peuvent le prendre en communion. C'est difficile. Le sicus meshum. Comment gérer le sicus meshum? Comment gérer le meshum? Comment gérer le sicus meshum? C'est l'inversion métaphysique qui fait qu'on n'a plus les repères. Le seul repère, c'est le retour. C'est la part aussi, c'est le cinquième saut de l'Apocalypse. C'est la cinquième demeure. Il n'y a pas d'autre repère. Non, en vérité, c'est vrai que l'intention donc du prêtre quand il célèbre la messe, et c'est pour ça que c'est un effort de contemplation, de mystique, d'union à Jésus prêtre qui s'offre en victime, il prend le pain effectivement, et dès lors qu'il touche ici, vous voyez les doigts, ça représente, comment dirais-je, les quatre plaies sur la croix où le Messie, parce que le pain messianique qui est offert déjà en offertoire, c'est déjà la présence messianique du Christ, donnée en communion à la scène de l'Ancien Testament. Pas oublier que Jean Jésus fait la scène, c'est encore l'Ancien Testament. Il s'est donné en communion. Le pain du Messie était toujours là, à chaque Pâques, le pain réservé au Messie. La scène, ça date de Moïse. C'est le Messie qui a expliqué à Moïse, voilà, sur la table de la scène, il y avait quatre coupes. C'est pour ça qu'on dit maintenant nous buvons à une unique coupe. Il y avait quatre coupes. La couche Bereshit, la couche Mashiach, la couche Berakut, etc. Les quatre coupes de toute façon. Et il y a une coupe, une quatrième coupe. Et la scène était partagée en quatre moments. C'était la scène de la Pâque, de la Pesha, de Seder, de la Pesha en Israël. Ça a duré quand même un certain temps, hein, de Moïse jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Il me semble, ça fait pas mal de siècles. Hein. Voilà. Vous savez, 1300 ans, c'est quand même pas rien, non? C'est pour ça qu'en 1360, vous avez entendu l'autre jour, le début de la guerre, la première guerre mondiale contre le corps mystique international, si je puis dire, de toute la Terre, en frappant la tête. Hein. Ça, c'est un autre problème. 1300 années pour Moïse. Voilà. Quand Jésus, il célèbre la scène, il célèbre la scène, la Seder en Israël avec ses disciples. Je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. La coupe qui est là, la quatrième coupe, c'est une coupe, c'est la même, c'est la coupe de Melchisédek. C'est Melchisédek qui a apporté cette coupe. Cette coupe n'a pas été fabriquée de main d'homme. C'est avec cette coupe que Melchisédek a donnée, que Melchisédek a apporté à Abraham, qu'Abraham a conservé, puis qui a été conservé ensuite dans l'Arche d'Alliance. C'est une coupe, je ne sais pas comment vous la décrire, elle est... C'est, peu importe la description, mais cette coupe-là, elle vient du ciel. Et en même temps, elle vient de la terre. Elle a été apportée par Melchisédek à Abraham. Et quand les trois du chêne de Mambré, le sacrement de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité sont présentés à Abraham, celui qui représentait au milieu et qui parlait, les trois s'exprimèrent à Abraham en disant « Je vais ». Ils étaient trois et ils disaient « Je ». Et celui qui disait « Je », c'était évidemment le Verbe de Dieu, le Fils, la Parole, le Petit Père. Et c'est lui qui a donné la communion à Abraham. Et le précieux sang. Melchisédek, quelques années avant, avait apporté en communion du pain, un pain céleste, mais ce n'était pas l'Eucharistie, c'était sa préfiguration, c'était son signe, et du vin, qui était le signe aussi, du sang du Messie. Mais là, Abraham, on avait ce sens, vous voyez, de ce que se représentait cette coupe, c'était très important cette coupe, à chaque pesha d'Israël. Il faut voir, pour un juif, la pesha, le seder, c'est très. C'est la substance d'Israël. Hein? Alors qu'on comprend la force du mémorial, du tzikaron, de la messe comme scène où le Messie se donne en nourriture. C'est sûr, ça. Donc, là, on boit une première coupe, on lit le psaume, on boit la seconde coupe et on raconte. On fait mémoire de la libération d'Israël qui sort, qui est arraché au monde du mal, de l'Égypte et du démon. Puis après, on chante une troisième coupe, on boit la coupe aussi, on boit la troisième coupe en chantant le Hallel, vous savez, le fameux Hallel. Et puis après, voilà, ça y est, on, entre les deux, on a communié à cette fameuse communion qui est au milieu, et tout le monde est debout, et il y a le pain sans levain, et un bout d'agneau. Et le pain. Et l'agneau, une couche de pain et une couche d'agneau, et tout le monde se nourrit du pain agneau. Et après, on chante le Hallel, et on boit à la coupe, puis dans la coupe. Et une fois qu'on a communié, une fois que tout ça est fini, on remercie le Seigneur et on s'en va. Ah oui, mais attention. Puisque le Messie n'est toujours pas venu, puisqu'il devait venir pour Pâques, n'est-ce pas? Donc, le Messie n'est toujours pas venu, alors le maître de la maison, le patriarche, le père de famille, il faut au moins 3 pères de famille pour célébrer un seder en Israël, dit bon, avant de partir, puisque le Messie n'est pas venu, il reste encore le pain réservé au Messie, là, qui est au bout de la table, que personne n'a le droit de toucher. Vous savez, on voit dans l'évangile, on n'a pas le droit de toucher ce pain-là. D'après la Torah, n'est-ce pas? Pourquoi c'est le pain réservé au Messie? Et puis, il y a la dernière coupe, personne n'y a plus encore. C'est pour ça qu'il est dit dans la scène de Jésus, une fois qu'il a fini, tout le monde se lève, lui il se lève aussi, il se met à genoux, il lave les pieds de ses disciples, puis il se relève. Et puis, avant de partir, pas besoin de partir, puisqu'il est, il est là, donc il prend le pain qui lui est réservé. Il prit le pain. Il rendit grâce. Il le bénit, il remplit, donna à ses disciples. Vous voyez? Et puis après, à la fin du repas, c'est bien à la fin du repas, puisque c'est la fin du repas, c'est après les trois coupes. Il prit de la coupe, c'est à la fin du repas. Tous les juifs comprennent que c'est la fin du repas, ça veut dire que c'est la fin du Seigneur, ça veut dire que c'est lui le Messie. Et il prend la coupe et il dit ceci, mon sang. Et en faisant ça, il consacre tous les cédères depuis 1300 ans dans sa présence réelle. Vous comprenez? Mais nous, quand nous célébrons la messe, c'est après la mort et la résurrection du Seigneur, n'est-ce pas? Donc c'est pas la même intention, c'est pas la même consécration, c'est pas la même présence réelle. Entre les deux, je vous signale, il y a eu Marie. Donc l'Église annonce que lorsque tu prends le pain eucharistique, tu prends bien sûr toute l'offrande messianique depuis la sagesse créatrice, depuis la sagesse messianique, depuis le don du Messie comme nourriture. Attention, ce n'était pas rien, le don du Messie comme nourriture pendant 1300 ans. Ce n'est pas rien du tout. Hein. Puisqu'il nourrissait tellement de sa présence lumineuse messianique le cœur, l'âme, la chair de ceux qui s'en nourrissaient, que s'ils vivaient jusqu'au bout leur foi, leur amour, leur espérance messianique, ils vivaient une transformation divine surnaturelle. Et ça opérait en eux une telle surabondance messianique que quelquefois ils étaient. Ça débordait de leur visage en lumière. On a tous les témoignages de transfiguration d'Élie, des Nachis d'Israël, pour les plus connus, bien sûr, mais bon, Simon Anachi, quand il célébrait, il était transfiguré. Mais pas seulement lui, on a par exemple les témoignages des contemporains du Christ, comme par exemple Yana de Bezakai, ou Anachi, tout ça, c'est des gens qui quand ils célébraient. Et Nathanaël, qui est un des disciples, qui était un Akmer Talmud, puisque Jésus le dit lui-même, il dit quand il était sous le figuier, quand il est sous le figuier, ça veut dire qu'il est dans une telle unité, dans l'abondance, surabondance lumineuse du Messie, qu'il faisait surabondance, c'est le Messie qui parlait à travers sa bouche dans la lumière, qui illuminait le cœur de ceux qui l'entendaient. C'est ça qu'il disait de manière très sage, simple, docte et véritable, un Messie qui sort de Galilée. Je ne sais pas. Il avait expérimenté quelque chose d'autre, lui. Et le Messie était venu en lui, il l'avait vu, et c'était sa lumière. Et le Messie l'a vu, et ils se sont vus tous les deux, et ils se sont reconnus, si je puis dire. Et Jésus lui dit, c'est moi qui t'ai vu quand tu étais sous le figuier. C'était moi. Il l'a reconnu à sa voix, à sa lumière. Il a dit, tu es Dieu, le Fils. Vous rappelez de ça, Nathanaël. C'est pas rien, le sacrifice. Enfin, c'est pas le sacrifice. C'est, oui, le sacrifice de la serre. Après avoir fait cela, Jésus a consacré prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, les 12 apôtres, les 11, il a fallu attendre que Judas s'en aille, après la communion. Il les a consacrés, prêtres. Il a donc institué le sacrement en eux. Et il s'est confié, bien sûr. Il a confié sa présence réelle, sacramentelle de prêtre, de manière prophétique, en confiance à Marie, parce que à chaque fois que Jésus fait quelque chose d'important quant à sa présence réelle, c'est en raison de la foi de Marie. Marie, quelque part, de manière mystérieuse, mais pas si mystérieuse que ça, elle savait que cette fois-ci, on passait de la scène à la présence réelle de la mendication, du nom hypostatique de son fils, de l'agneau, l'agneau lui-même, où le prêtre et le sacrifice sont une seule offrande. Elle a dit oui. Et du coup, Jésus s'est offert. Mais pour s'offrir, il fallait qu'il y ait des prêtres. Et que lui devienne agneau, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il partit à Gethsémani. Mais quand l'agneau et le prêtre se sont rejoints dans une seule personne, dans une seule lumière, c'est après l'ascension. Entre les deux, il y a Marie. Marie fait l'unité toujours. Elle est source et elle fait l'unité. Chose est sûre, c'est que l'Église enseigne, croit, proclame que quand le prêtre dit Jésus, il n'y en a qu'un seul prêtre, c'est Jésus. Quand le prêtre dit ceci est mon corps, ce corps, nourriture messianique du corps glorieux du Christ, du corps béni du Christ, du corps divin du Christ, de l'humanité du Christ, est rendue présente sur la croix. Et à la consécration du précieux sang, est rendue présente substantiellement. La coupe, donc, l'arrachement de l'âme humaine de Jésus dans la coupe, c'est-à-dire dans la présence paternelle de son Père, dans les enfers, rendant la gloire de la résurrection présente dans le sacrifice, mais arrachée à son corps mort, lui est déposée sur l'autel, c'est-à-dire le cœur déchiré de Marie. Et donc c'est la présence de la mort de Jésus sur le Golgotha qui se rend présent et non pas la présence de la scène. Ce qui ne veut pas dire que la scène ne soit pas une certaine présence réelle quelque part. C'est celle qui rend présent la présence messianique, la personnelle du Messie à tous les sacrifices, j'allais dire, messianiques depuis Moïse jusqu'à Jésus. C'est quand même vrai qu'il y a une présence réelle, mais c'est une présence de zikaron, c'est pas une présence substantielle, transsubstantielle, sacrificielle. C'est un sacrifice, vous voyez, sacrifice. Donc vous célébrez la messe de rite extraordinaire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute si vous êtes respecté tout, que c'est le sacrifice qui est là. Vous célébrez la messe de rite ordinaire, il faut faire un effort. Il faut faire un effort tout le temps d'être entièrement embrassé de la doctrine et de l'obéissance à l'intention de l'Église. Donc, il faut tous les jours, renouveler sa connaissance et l'approfondir de la doctrine infaillible de l'Église. Sur quoi d'ailleurs les fidèles ne sont pas autorisés à s'exempter. Ça vous êtes ici. D'ailleurs, pour savoir quelle est la doctrine de l'Église. Ben, vous venez savoir, si on va écouter le prêtre, c'est parce qu'il nous donne la doctrine de l'Église. S'il ne vous donne pas la doctrine de l'Église, s'il vous donne la doctrine de Freud, n'allez pas suivre une retraite avec lui. Hein. C'est peut-être pas si génial que ça, Freud. Hein. Parce que tout ce qu'il nous a révélé, il a appris en pissant contre un arbre. C'est lui qui a dit tout ce que j'ai eu comme révélation sur les profondeurs de la psyché, c'est en pissant contre l'arbre, en urinant. Il n'a pas dit pisser, en urinant contre l'arbre. Là, les sources de sa révélation. Vous faites des retraites freudiennes. Allez faire des agapés psychospirituels, psy. Ça ne vous ouvrira pas la doctrine de lui, ça vous permettra de sortir de vos blessures. C'est de mettre à jour les pardons que vous n'avez pas donnés.
La blessure du cœur, c'est comme dans la messe. Après ça, parce que...
C'est Jésus qui je vais y revenir. Pourquoi c'est la présence réelle? C'est à cause de Marie que c'est la présence réelle. Je vais y revenir. Marie est mère de Dieu, pas mère de Jésus. Elle est mère de Jésus aussi. Elle est mère de Dieu. Elle est mère de Christ, c'est plus que mère de Jésus. Elle est mère de l'union hypostatique de Jésus. Elle est mère de Dieu, qui est plus que mère de l'union hypostatique de Jésus. Ah, mais moi, je ne vois pas la différence hein, entre Jésus, le Christ, l'union hypostatique et Dieu dans le Christ. Bon, si tu ne vois pas la différence, c'est un petit peu ennuyeux. Il faut que tu apprennes à rentrer au moins dans la voie illuminative, quatrième et cinquième demeure, pour voir la lumière, la différence entre Dieu et l'homme. Et mère de Dieu. Je vais me rendre témoignage à moi-même. Là, j'ai un petit jeune là, qui est dans une famille catho, hyper branchée, etc. Et puis il s'est mis à lire Marie, modèle de notre foi. C'est la première retraite que j'ai prêchée comme prêtre en 1987, je crois, quelque chose comme ça. Et puis ça a été tapé Marie, modèle de notre foi. C'était à la Cano, quoi, c'était en 88 peut-être, je ne sais pas. Il a lu ça et il m'a dit, il a 20 ans, donc il m'a dit, c'est on peut rien trouver de plus fort. Je dis oui, je reconnais que c'est vrai. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi, parce que cette doctrine sur la virginité, sur la maternité, sur la prédestination, sur la foi de Marie, je sais moi-même qu'il n'y a rien de plus fort. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un document qui n'avait jamais été édité et qui venait du père Guérard, du père fameux père Guérard. Quand le père Gérard Deslauriers écrivait quelque chose, c'était un dominicain, de l'époque du Solchoir. À peine plus âgé que le père Marie de Robert Thomas, à l'époque du père Dehaut, vous voyez. C'était des géants. C'était géants. Et lui, de très loin, c'était l'intelligence la plus pure de tout le Solchoir. Ce qui n'est pas peu dire. Et quand il écrivait un livre de théologie, scolastique, thomiste, ou je ne sais pas quoi, un grand maître de scolastique, de thomiste, le père Marido, un jour, lui a dit, mon père, il avait essayé de le lire, mon père, à votre avis, combien de personnes dans le monde sont capables de comprendre ce que vous avez écrit dans ce livre? Père Guérard a regardé, il a dit deux, peut-être trois personnes. Et il a, un jour, vers la fin, avant qu'il concile, vers la fin de son choix, il s'est dit, il faut faire quelque chose sur la prédestination de Marie. Je me demande si ça vient pas de Marthe, parce que Marthe avait vu déjà le père Caricot, Lagrange. Père Caricot, aussi quelqu'un magnifique. Et la Sainte Vierge, quand elle faisait des apparitions à des séminaristes, etc., on reconnaît un prêtre comme ça, que la Sainte Vierge venait donner des conseils sur la manière de travailler la doctrine dans le séminaire. Et je n'arrivais pas comme curé d'art, C'est vrai, quand il faut que tu t'enfiles Karl Rahner, Karl Barth, etc. C'est abominable, en plus c'est hérétique. Alors bon, donc c'est imbuvable, non seulement c'est imbuvable, mais en plus c'est pénible. Alors la Sainte Vierge dit non, non, ça, vous laissez tomber, là, écartez ça. Et puis elle montrait au séminaire, à ce prêtre-là extraordinaire, c'était un prêtre du nord de la France, dans une région minière. Elle disait ça, là vous ne perdez pas votre temps, pas celui-là. C'était le Père Garrigou. L'île du Père Garrigou. Père Garrigou, un jour, le Père Garrigou va chez Marthe Robin, à Châteauneuf. Et Marthe lui dit, c'est bien ce que vous faites. Alors Père Garrigou lui dit, ah oui, merci. Et Marthe dit, oui, mais on n'avait rien écrit sur Marie. Ah oui. Alors, quand 4 ans après, il est revenu la voir, il dit, vous savez, Marthe, j'ai écrit un livre sur Marie. Elle dit, ah oui, vous ne vous êtes pas foulé. Ah, il savait que c'était pas foulé. Mais le Père Garrigou, lui, ce n'était pas le Père Guérard. Le Père Guérard, ce n'était pas le Père Garrigou. Le Père Guérard, tout ce qu'il fait, il faut que ce soit parfait. Et je me demande si c'est pas Marthe qui l'a dit aussi à lui. Et il a écrit, ça n'a jamais été édité. J'ai trouvé, je crois miraculeusement, ce document. Je l'ai lu. Je l'ai trouvé admirable. Je l'ai trouvé parfait. Je crois que sur le plan de la doctrine verticale de la foi de Marie, c'est impossible de faire mieux. Alors je l'ai étudié, j'ai pris mon stylo. Parce que s'il y a 2 ou 3 personnes dans le monde seulement qui peuvent perdre le grange, j'en fais forcément. Mais il a fallu du temps, je pense. Et du coup, je me suis dit, on va traduire ça, parce qu'il ne faut pas que ça vienne qu'à 2 personnes dans le monde. Il faut que ça puisse être traduit à 7 milliards de personnes. Et du coup, je l'ai dit, on va faire le Marie modèle de notre foi. On a fait le prochain retraite là-dessus. Mais c'est absolument extraordinaire. C'est unique au monde, ça c'est évident. Marie modèle de notre foi. Si vous n'avez jamais vu Marie modèle de notre foi, je vous connais plus. Mais j'étais content parce que ce gosse il a 20 ans et il a dit mais. Et donc je reviens, donc c'est pas pour faire la pub parce que vous savez. Vous avez ça sur internet, même vous pouvez prendre sur internet Marie modèle de notre foi, vous mettez catholique, Marie modèle de notre foi, vous tombez sur le truc, hein, vous n'avez pas de problème. C'est pas comme ça que je dis ça. Je dis qu'est-ce qui s'est passé en Marie? Qu'est-ce qui s'est passé en Marie? Qu'est-ce qui s'est passé en elle? L'attraction véhémente du Père, au moment où le Fils, ordonné par le Père, saisit le Seder, enfin le Seder, la dernière coupe, le Seder d'Israël, pour l'accomplir dans son sacrifice. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle ne voyait rien. Elle ne voyait rien. Elle ne saisissait aucunement l'intention de l'incarnation. Elle ne saisissait aucunement l'intention de l'incarnation de son Fils. C'est elle qui avait engendré dans la personne divine de Dieu l'intention de Dieu dans l'incarnation. Alors, elle est mère. du regard éternel de Dieu lui-même dans sa contemplation divine de lumière divine qui fait sa substance même de personne. Alors, j'aimerais ce respect tous de Dieu lui-même dans sa contemplation divine de sa lumière qui fait sa propre personne hypostatiquement, se respecte tous vis-à-vis de son incarnation pour être jeté en terre, pour être l'onction de l'unité du monde, du ciel, de la terre et de Dieu, pour être l'agneau et pour être la victime éternelle d'amour. Vous voyez que la Vierge Marie n'avait aucun sens du monde angélique, aucune intuition sur Melchisedec, jamais rencontré. Vous voulez arriver, puisqu'elle était elle-même l'émanation du dépôt de Melchisedec dans le sein d'Abraham, dans le sein d'Adam. Elle était. Elle n'avait aucune connaissance d'elle-même. Vous croyez ça, vous? Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ah, c'est drôle de plénitude de grâce. Drôle de plénitude de grâce. Il y a une différence entre la grâce catholique et la grâce protestante. Luther, il dit, on ne sait rien. On est pécheurs, notre intelligence est détruite. De toute façon, c'est un mari comme tous les autres d'ailleurs. Ben voilà, on est descendant d'Adam, donc tout est foutu. On ne peut plus rien faire. Il faut avoir la foi, puis Jésus fera le reste. Et tu restes pécheur, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas une question de soi grave ou pas. On ne peut pas ne pas être pécheur. Et la grâce ne peut pas pénétrer pour qu'on devienne des saints. Donc Marie, la sainteté, la grâce, la lumière, la vie contemplative, l'union transformante, n'existe pas. Il ne reste plus qu'à les pendre. C'est pour ça que Luther s'est pendu. Comme Judas. Alors moi, je ne suis pas luthérien. Je ne veux pas suivre un pendu. Je veux suivre le Verbe éternel. Je veux suivre l'Immaculé, moi. Je ne suis pas disciple du pendu, moi. Il a été élevé sur la croix, vous voyez, c'est pas pareil. Alors Marie, donc, comment Marie, ça s'est fait. Ça ne s'est pas, on pense à la cinquième demain. Marie. Moi, je ne sais pas, c'est pas marqué dans la Bible. C'est pas marqué dans la Sainte Écriture, c'est pas marqué dans l'Évangile. Est-ce que Marie a communié? C'est pas marqué. L'Église n'a jamais rien dit à ce sujet. Aucun saint, personne. Ce qui montre que ça n'a pas d'importance. Parce que c'est pas ça. Marie n'est pas celle qui regarde en arrière, mais celle qui est toute fixée sur l'union hypostatique des cieux et Jésus. Elle va livrer. Déjà qu'il y a eu la communion et sacerdoce victimale éternelle instituée sacramentellement. Et ça vient de sa foi, forcément, puisque Jésus s'est toujours associé à l'intention. Faites tout ce qu'il vous dira, faites ceci en mémoire de moi. Parce que faites tout ce qu'il vous dira et faites ceci en mémoire de moi. Ça vient d'une seule bouche, c'est celle de Marie, de Jésus. Et Jésus, c'est les deux lèvres du Christ qui s'offrent en victime d'amour éternel comme personne divine. Il ne faut pas oublier ça. Et tu fais ceci en mémoire de moi. C'est ça qui, d'après le Concile de Trente, a consacré prêtre éternellement les 12 apôtres, les 11 apôtres. En mémoire de moi. Sikaron, c'est la présence réelle. Hein. Sikaron, mémoire et présence réelle, c'est la même chose. Quand vous faites mémoire de votre oui originel, c'est pas juste essayer de se rappeler d'ailleurs. C'est pas dans votre intellect possible. Donc c'est pas essayer de se rappeler. Puisque c'est pas, vous n'avez pas de cerveau. Donc c'est pas pour vous rappeler. C'est c'est faire revenir, parce que vous en avez la présence réelle, la faire revenir dans sa présence réelle, actuellement, à l'état adulte, le oui originel, dans toutes les cellules de votre corps. C'est les portes de la cinquième demeure, ça va faire revenir un petit corps, la mémoire, la présence réelle. Bon, Marie donc. Elle connaît l'intention du Christ, elle sait que ce sacerdoce est lié à ce qu'il va faire, puisqu'il a été reçu en communion par Judas. Il a été reçu en communion par Judas, c'est sûr, puisque Jésus a pris le pain, et puis il a donné la bouchée. Ce n'est pas donc la mendication du pain agneau. Il a donné la bouchée. Le pain du Messie ne se donne que sur la bouche, dans le Seder d'Israël. La communion sur la bouche est obligatoire, de nécessité absolue, que depuis 3360 ans. Il a fallu un chikus meshom très grave du Nouvel Israël pour briser le mémorial de Christ dans la communion. Ouvrant ainsi les portes à la possibilité, 35 ans plus tard, du chikus meshom. C'est venu du Nouvel Israël, ça. C'est pas venu d'Allemagne. C'est pas venu des États-Unis. C'est pas venu d'Angleterre. Ah, c'est pas venu d'Angleterre, ça c'est sûr que non. Je reviens, vous voyez bien, il a bien donné la bouchée à Isaac. Judas a reçu. La présence d'intention du Christ. Et c'était vraiment bien, c'est une intention, c'est pour ça que la communion de Judas et l'absence de révélation sur la communion de Marie est très importante. Le silence sur la communion de Marie, on ne sait pas. Et la communion de Judas qu'on sait, c'est très important. Parce que tout le démon, lui, a désormais accès au secret de l'Eucharistie à travers Judas. Mais il n'a aucun accès au secret de l'Eucharistie à travers Marie. Parce que je pense, moi, qu'elle n'a pas reçu la communion. Pourquoi ? Parce qu'elle devait recevoir cette communion dans la transverbération, à l'instant même de la mort du Christ, en rentrant dans le sacerdoce éternel d'amour, et victimal dans Saint Jean, substantiellement, dans l'au-delà de l'unité de Dieu, avec sacerdoce du Christ, dans Yohanan ben Zakkai. C'est ce qu'on avait vu la première fois, c'était la première méditation qu'on a fait. Donc le démon, grâce à cette communion, était sûr de vaincre le Christ. D'où Gethsémani. Il est sûr de le vaincre. Personne. Parce que Jésus, dans son humanité, n'était pas l'humanité tout entière. Il lui manquait l'aide par laquelle il aurait pu représenter l'humanité intégrale. C'est extraordinaire, ça, je trouve, moi. Quand Jésus s'est retrouvé sur la croix, il a dit donc Yahana Bahalo Umak. Et Marie a fait l'acte de foi. Merci Père Garrigou. et un bel acte de foi. Et se livrer avec lui dans l'instant qui a précédé sa mort, avant sa mort. Se livrer avec lui, du coup, dans ce oui qui venait de l'appel, la force de Dieu en l'unité des deux. Il y a l'unité avec la spontanéité, très grande profondeur de la mort, qui réalisait un triple oui en un seul. La supervenue du Saint-Esprit l'a saisie. Supervenue unité du dedans d'elle, supervenue du Saint-Esprit, elle a été assumée par le Père dans l'incréé de l'éternité qui précède le monde entier. Et ça oui a pénétré la très sainte Trinité. La contemplation incréée de Dieu a vu cette nouvelle lumière. Elle l'a saisie. Et elle a fait que le Verbe de Dieu a regardé son humanité sur la croix de manière nouvelle, avec la puissance du Saint-Esprit, pour opérer de manière éternelle ce que seule la puissance éternelle de Dieu pouvait réaliser, arracher l'âme de Jésus à son corps, provoquer, engendrer la mort. Ce qui était strictement impossible. Alors le soldat qui était là, un spécialiste de la mort, il a vu qu'à cet instant-là, Jésus s'est redressé. Il a poussé un cri gigantesque. Et il a vu que cet homme-là n'était pas mort à cause de la croix, il était mort par sa propre puissance. Il dit, ça c'est pas un homme, c'est Dieu. C'est marqué dans l'évangile. C'est Dieu. C'est impossible. Lui, il l'a vu uniquement à la manière dont Jésus dans l'humanité est mort. Marie l'a vu, elle, par sa foi. Elle a engendré, livré, rendu possible cette déchirure d'union hypostatique de Jésus, cette présence réelle de la mort. Et puis après, donc, elle a reçu en communion, puisque Jésus est descendu, donc, glorifié, totalement ressuscité dans son âme, mais séparé de son corps, cette gigantesque abyssale, puisqu'elle appartient même au monde de Dieu, et de la résurrection inscrite dans l'âme de Jésus et Joseph. Cette extraordinaire ouverture, gigantesque, gigantesque, gigantesque. Elle doit faire l'unité entre les deux, c'est ça. Là, du coup, elle reçoit l'amour victimal éternel de Dieu le Fils en elle, avec le glaive du Saint-Esprit, dans la transverbération. Et c'est là qu'elle reçoit la présence réelle du sacrifice éternel de la communion. Ce sacrifice, cette présence réelle est en elle. Et elle sait, puisque Jésus vient de lui confier le sacerdoce sacramentel, de le vivre en présence de ce sacerdoce sacramentel, pour que le sacerdoce sacramentel soit sacerdoce victimal éternel d'amour, salon de Bekistek, et donne le pain de cette sacerdoce victimal éternel dans tous les sacrifices eucharistiques jusqu'à la fin du monde. Et donc c'est elle qui engendre dans tous les sacrifices eucharistique jusqu'à la fin du monde, à cet instant-là, le fait que ce sacrifice eucharistique ne soit plus la présence du Seder et du pain du Messie, mais la présence du sacrifice éternel d'amour jusqu'à la fin du monde. La présence réelle du sacrifice du Golgotha est engendrée par Marie comme présence réelle dans tous les sacrifices de la messe du futur jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la résurrection universelle, touchant ainsi la résurrection universelle à travers ça. Vous voyez l'acte de foi suivant, un des actes de foi suivants, parce que j'en passe, parce que je ne peux pas vous dire tous. Bon, et bien, c'était les touches, donc, cette réunification de la résurrection universelle de tous les hommes du monde entier, de tous les temps. Et elle a envie, elle fait l'acte de foi dans le sacrifice eucharistique. De toutes les messes du monde et dans l'au-delà de ce qu'elle représente dans leurs fruits. Et du coup, elle est envahi par cette nouvelle supervenue du Saint-Esprit aux vibrations du Père. Et du coup, dans son oui nouveau, elle engendre la résurrection. Mais comme ce n'est pas l'heure de la résurrection universelle, parce qu'il faut tout le temps de l'Église, alors Jésus ressuscite d'entre les morts. Et vous le savez aussi, en même temps, l'époux d'Immaculée Conception ressuscite d'entre les morts. Elle a engendré, ça c'est sûr, elle est mère de Dieu. Si on dit que les mères de la résurrection, c'est moins que d'être mère de Dieu. Lorsqu'Gabriel l'a dit, à chaque fois qu'elle va faire un acte de foi, c'est toujours abyssalement plus grand que l'acte de foi précédent. À chaque fois, elle t'a dit ah, oui. Et à chaque fois, dire comment ça peut-il se faire puisque je ne suis qu'une créature. L'ange Gabriel lui dit à chaque fois, l'ange Gabriel prend cette forme différente, bien sûr. Mais si, n'aie pas peur, le Saint-Esprit superveniet in te, de l'intérieur, le Saint-Esprit superviendra du dedans de toi. Attention, c'est une hypostase de la personne divine. Hein. Et la toute-puissance du Père, toi, bon prora, oh bon prabit. C'est eux qui vont, du coup, dans l'amour de l'engendrement de cette lumière du Verbe, de la personne de Dieu, engendrer dans le Verbe de Dieu un nouveau regard sur ce qu'il a à faire lorsqu'il tombe dans la terre du Bereshit en Marie. Et tous les mystères du Christ, tout ce qu'il a fait, c'est ça les noces de Cana. Et il les a fait en se soumettant et en coopérant en affinité parfaite à la fois actuée de Marie dans la supervenue du Saint-Esprit, l'obombration du Père. C'est l'évangile, hein, semble ça. Merci Père Carigo. Elle a donc engendré non pas le sacrifice, la messe de l'Église jusqu'à la fin du monde d'aujourd'hui, mais elle a engendré, elle a rendu présent réellement, substantiellement, mystiquement, divinement et corporellement la présence du sacrifice de Jésus à chaque messe jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est dur à comprendre ça? Et le prêtre qui ne fait pas ça dans l'intention de Marie, dans l'intention de l'Église, quoi. Parce que l'Église, c'est la Jérusalem immaculée de Dieu. C'est pas la foi de Marie. C'est quoi? Au mieux, c'est la foi d'Abraham, alors, et de Moïse, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas la foi de l'Église. Donc le prêtre, il célèbre la messe dans quelle intention? C'est la présence réelle de quoi? Tu consacres. C'est le sacrifice. Ou bien, tu consacres. Et c'est la nourriture du Christ. C'est le repas céleste. Ou c'est l'union hypostatique des cirés, c'est le sacrifice, la présence réelle. Le bon Père Emmanuel. Mais enfin, à chaque fois que nous assistons au sacrifice de la mère, mais nous sommes devant le Golgotha. Pas moins, peut-être plus, mais c'est le Golgotha. Et ceux qui étaient au pied du Golgotha, les agents, se sont trouvés devant le Golgotha, devant Jésus, qui a arraché, qui a connu la mort. Et nous sommes devant la présence réelle, personnelle, humainement, divinement aussi, mais réel. Là, maintenant, devant le Golgotha, c'est pas un repas.
Alléluia, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu, on s'embrasse, alléluia.
Agneau de Dieu, c'est pas alléluia. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il vient d'être immolé là. Alors on s'embrasse et donnez-vous la paix, c'est pas donnez-vous la paix. À ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. Tout le monde est parti. Marie et Jésus et Saint Jean ont pu s'approcher de la croix. Et ils se sont soutenus. Ils se sont soutenus pour se donner la paix et la force pour s'approcher de l'heure où il allait leur donner mutuellement l'un à l'autre le don de la présence du sacrifice d'immolation, sacrifice éternel d'amour. Sacerdoce victimal éternel d'amour sur l'ordre de Melchisedec pour tous les temps et pour l'au-delà de tous les temps. Alors, ils se sont soutenus, ils se sont donné la paix, ils ont fait ça dans une paix profonde, voilà. Dans l'allégresse, c'est vrai, dans la joie très sourde, très profonde, très lointaine, de pouvoir coopérer à la rédemption du monde et à la joie du ciel. Parce que la joie du ciel de la résurrection, c'est de pouvoir s'ouvrir pour rentrer dans la très sainte Trinité et dans la vision béatifique à travers vous. C'est ça l'intention normalement d'un prêtre de l'Église catholique quand il célèbre la messe. Et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, un prêtre qui n'a pas l'intention de célébrer avec l'intention de l'Église, c'est-à-dire de célébrer le sacrifice vivant du Christ. Là, sur l'autel. S'il n'a pas cette intention-là, la messe est invalide de plein droit. Hein? On ne peut pas dire trop fort, parce que ça m'embête de vous dire ça. Parce que vous dites, mais est-ce qu'il y a la présence réelle à toutes les messes où je vais? À partir de maintenant, je vais sentir, par exemple, mon élève, oh, mon père. Il me semble que là, il n'y avait pas la présence réelle. Là.
J'ai insisté.
Depuis
un général, oui. C'est bien glacé. Il y avait un courant d'air glacé qui passait dans tout
le monde. Courant d'air glacé. Oui, alors vous voyez, c'est le danger de ce que je vous dis. Le danger de ce que je vous dis, c'est que du coup, vous allez vous retrouver comme un juge de savoir si la présence réelle ou pas. Surtout pas. Attention. 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 Ça vous regarde pas. Parce que vous savez très bien que Marie est là. Et donc la présence réelle, elle y est de toute façon, à cause de la présence de Marie, si vous êtes dans la cinquième demeure. Alors c'est le sacrifice du Seigneur. Marie change tout, puisqu'elle a changé en Dieu sa manière de se donner à sa créature. Alors, donc la question c'est de savoir, mais si je ne suis pas dans la cinquième demeure, alors qu'est-ce que je fais, moi? J'ai l'air d'une idiote. J'ai l'air d'un imbécile. Moi, je suis charismatico-dingo. Mystico-charismatico-métapsychico-dingo. Normal, j'ai des blessures. J'ai encore des blessures, je sens que je ne suis pas entièrement libéré de mes péchés, tout ça. J'ai des dérives encore négatives de la conscience de culpabilité. Hein, c'est ça. Donc si je ne suis pas dans la cinquième demeure, donc la question exacte c'était, je suis foutu.
Non, je n'ai pas dit que c'était foutu, oui. C'était pas ma question.
Oui.
C'est est-ce qu'on peut prendre autorité?
Ah voilà, c'est ce que je peux prendre autorité. Alors, la réponse est très simple. À partir du moment où vous rentrez dans l'oraison, vous donnez du temps. Vous donnez tout. Vous acceptez de ne donner, de n'opérer aucun mouvement venant de vous, en donnant tout le temps, sans qu'il y ait rien de ce temps qui soit produit par un mouvement, parce que vous savez que le mouvement est produit par le temps, et que le temps fait le mouvement. Parce que c'est un mot, oui, c'est ça. C'est qu'à cause du mouvement qu'on mesure le temps. Aucun mouvement ne vient de vous. Donc ça veut dire que le temps de l'oraison, vous le donnez. S'il y a un mouvement de pensée, de méditation, de brûlure intérieure, d'impression spirituelle, vous faites un mouvement. Si vous grattez le nez, vous dites, ah oui, 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 ah ben ça me gratte, ah ben j'ai un zona, je commence à avoir une crampe dans le pied, et je bouge le pied, et je machin, et je fouille dans mon sac pour revenir, et avec le sac plastique, etc. S'il y a 40 personnes qui font en raison, ça fait rien, je bouge. Ça ne me dérange pas de déranger tout le monde, de déranger le bon Dieu. Parce que ça dérange le bon Dieu, parce que le bon Dieu, lui, il voudrait pouvoir parler. Mais si je fais oraison, je donne mon temps. J'arrête tout. Je ne dors pas. Non, oraison, c'est comme ça. Là. Quelquefois, je me gratte ici.
Sauf quand je fais raison.
Mais je fais raison. Si, ah, je fais raison. Toc, je suis là. Toc, j'arrête. Là, pendant ce temps de suspension, où je me mets à disposition pour que le cœur de Christ brûle tout mon intérieur dans le silence de son union hypostatique des sirènes, un silence sacerdotal sectimal, éternel d'amour de Christ dans la dormition de Marie. Je reste suspendu comme ça, en acceptant de ne pas même être au-dessus de Dieu, au-dessus du Christ et au-dessus de Marie, en disant, oui, je vais faire ma prière. Enfin, je vais faire ma prière. Non, non. Je vais rentrer dans la prière. Je vais rentrer dans l'oraison. Je vais rentrer dans la présence où Dieu passe devant. Le silence. Victimal d'un d'amour. Et là, je reste suspendu avec la politesse merveilleuse de l'Immaculée Conception qui s'endort pour laisser la place à l'Église tout entière. Dans son accomplissement final, je reste là, disponible, pour être brûlé par ce certain vase victimal d'amour. Et bon, je fais des actes de foi, d'accord, peut-être, hein, pour me mettre en dehors de l'athéisme ambiant dans le monde dans lequel je viens d'immerger pendant 3 jours. D'accord, je fais des actes de foi pour me ressentir. Je me dis, mais oui, sacerdoce victimal, bien sûr, mais un bon victimal éternel. On peut voir, par exemple, on peut dire, par exemple, vous savez, le fameux truc qu'on dit à la nuit, là. Oh, pur amour, divin amour, transperce-nous de tes flèches et fais couler notre sang dans les plaies. Ça, c'est beau, ça. On peut refaire le trajet par la foi accomplie de l'Église, l'espérance accomplie de l'Église, c'est la plénitude reçue de la grâce accomplie de l'Église que je reçois dans un acte d'espérance. C'est la charité accomplie, finale, terminale, glorieuse, accomplie, plénière de toute l'Église, de la Jérusalem, glorieuse dans la Jérusalem, que je reçois dans l'acte d'amour. Alors, j'ai plus rien à ajouter. De jouir de ce feu et laisser ce feu faire ce qu'il a à faire. Et je commence à laisser ce feu silencieusement produire le cri tonitruant de cet amour victimal. Je le laisse tranquille, je ne bouge plus, je ne fais plus aucun mouvement, ni de la chair, ni de l'âme, ni de l'esprit. Saint-Esprit. À un moment donné, je laisse faire. Dès lors que j'ai commencé, pendant 8 à 9 secondes, cette politesse opérait, je suis rentré dans la raison. Et là, il n'y a ni première demeure, ni deuxième demeure, ni troisième demeure, ni quatrième demeure, ni cinquième demeure, ni sixième demeure, ni septième. C'est l'arc-en-ciel de l'Alliance. Les sept demeures y sont. Jamais, quand on fait oraison, on se trouve dans une demeure. Et c'est vrai que pendant l'oraison, sur la manière dont le monde est disposé, sur la manière dont je suis uni au monde, sur les luttes de l'Église, sur mes propres luttes par rapport aux fautes et aux péchés du monde, c'est vrai qu'il y aura des purifications irascibles qui vont surgir, c'est vrai, d'un seul coup une pensée phénoménalement absurde. Mais on s'en fiche puisque je suis dans le silence, ça, c'est des surgissements qui viennent dans mon mental, dans mon psychique, dans mes fantasmes, ça sort. Puisque ça sort, c'est anéanti. Si ça sort de moi, c'est que ça sort du monde. Mais je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas un mouvement qui vient de moi. C'est un mouvement qui vient de l'Esprit. De... Qui est capable de dire celui des sept dons du Saint-Esprit qui agit là, dans les purifications passives et divines du concupiscible, de l'irascible, de la mémoire et du mental et des pensées. Hein? C'est l'Esprit de... qui nous détache ces absurdités. C'est l'esprit de science. Bienheureux les affligés, ils seront consolés. Parce que tu vois, je vois que je suis obligé de me détacher, l'humanité est obligée de se détacher des choses à laquelle elle tient finalement. Je tiens à mes enfants. Je tiens à ma respectabilité, à ce qu'on m'en a. Mais ce Saint-Esprit de science nous détache, nous arrache à ça. On pleure. Et quand on doit vous arracher vos entrailles, qui brûlent vos entrailles parce que vous y êtes attaché de manière très viscérale, de manière terrestre et viscérale. Je ne dis pas de manière inexplicable, mais de manière viscérale. Et puis le Saint-Esprit vous en arrache pour qu'il n'y ait plus que l'amour de Dieu, que Dieu seul. Et que ce soit l'amour de Dieu qui vous fasse rejoindre ceux à qui Dieu, desquels vous vous êtes détaché sur le plan terrestre et psychique. Et en attendant, cet arrachement, ça vous fait pleurer. Bienheureux les affligés, ils sont consolés. Mais alors du coup, quelquefois on voit ces larmes qui coulent. Mais comment ça se fait qu'il y ait tant de larmes? Je ne sais même pas pourquoi. Ça veut dire que Saint-Esprit, dans une mission invisible, est en train de passer dans votre raison. Mais ça peut être aussi des purifications aussi de l'irascible, des torrents de boue, de haine substantielle qui sortent de vous pendant 5 minutes, 10 minutes de suite. Mais qu'est-ce que c'est que c'est dégueulasse? Je fais oraison. Alléluia. Il peut y avoir toutes sortes de purifications, purification de la mémoire, purification spirituelle, purification de la foi, purification de l'esprit, purification de toute façon. Donc, à chaque fois, vous voyez, je fais de toute façon, vous êtes dans toutes les demeures. Dès que vous faites oraison, l'Église vous dit une heure, hein, une demi-heure, au moins une demi-heure, d'une demi-heure à une heure. Vous avez donné votre temps. Il y a forcément, toutes les demeures. Vous comprenez ça? Mais bien sûr que le centre de gravité, parce que vous êtes encore attaché aux choses, à vos mains. Et à l'imperfection de la terre, à l'imperfection du péché. À cause de ça, c'est sûr que le centre de gravité de vos impressions analogiques sera plutôt dans la première demeure. Mais ce n'est pas parce que c'est le centre de gravité que les autres demeures n'y sont pas, vous comprenez, hein? Voilà. L'essentiel, donc, c'est de faire oraison.
Donc, on peut prendre autorité.
Donc, vous pouvez prendre autorité. Bien sûr. Parce que c'est Marie qui compte, c'est pas vous. Hein? C'est Marie qui compte. je coupe tous les liens néfastes, vous avez dit, Auguste, un des cieux souverain, maître des anges, qui dès le commencement, d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons humblement. C'est Jésus qui demande humblement à travers vous. Envoyez vos légions célestes pour que sous vos ordres, dans votre présence, dans votre puissance, poursuivent les démons, les écrasent, les combattent partout, anéantissent, effacent, évanouissent leurs efforts et les refoulent dans l'abîme éternel de l'enfer. Réponse de Marie, je coupe tous les liens néfastes qui se sont établis. Entre ma fille et ce salaud de Lucifer. Entre Lucifer et cette bécasse de ma fille. Mais Francesco, que je cherche depuis le début.
Il est parti chez Marie-Thiesse avec Benjamin.
Ah, bah parce qu'il m'avait demandé de laisser un petit moment, parce qu'il y avait des choses à préciser. Tant pis. Vous n'avez pas d'autres questions jusqu'à maintenant, donc tout a bien avancé. Vous êtes tout à fait au parfum, oui.
Juste une question, toujours à propos de l'Eucharistie, avec la nonne. Quand un prêtre donne à une personne, comme nous tous, l'Eucharistie pour aller la donner à un malade, alors on n'a pas le droit, parce qu'on n'a pas les mêmes consacres.
C'est-à-dire que, voilà, il y a un rituel, dès qu'il s'agit des sacrements, il y a un rituel. C'est pas parce que vous êtes de la communion à un malade que vous allez mettre l'hostie dans un bouquin, hein. Et puis, dans une enveloppe, au milieu du mouchoir, un petit mouchoir de poche que vous avez mis dedans en même temps, quoi, où il y a la mort, non, on fait attention, mais pas. Il y a une manière précisée, traditionnelle. Enfin, quand je dis traditionnelle, ça veut dire en genre révélée quoi, par le ciel, on dit attention, bien sûr. Oui, donc on reçoit. D'abord, pas sur les mains, puisqu'on le reçoit dans une custode. Vous ne touchez pas.
Quelquefois, il dit, vous allez dans le tabernacle et vous
prenez. Ah, cool. Oui, d'accord, non mais. Bon.
Si tu ne sais pas, c'est.
Oui, oui. Bon. Alors, d'une part, supposons que tout se passe bien, d'accord. Que vous assistez pas à une messe noire, vous n'êtes pas, c'est pas une messe noire, c'est pas un prêtre luciférien, non, c'est normal. Hein. On connaît ce qui est normal. Ouais. Après, les cas limites, c'est au cas par cas, hein, n'est-ce pas? Bon, donc, ce qui est normal. Donc, vous recevez la présence réelle dans une custode. Vous recevez délégation du prêtre pour apporter le pain vivant à un malade. Donc vous faites un acte de charité eucharistique héroïque et parfait. Ça va. Vous gardez la présence eucharistique sur vous en vous unissant à ce sacrifice eucharistique parce que, regardez quand on dit l'adoration du Saint-Sacrement, on termine toujours l'adoration du Saint-Sacrement. Ô Seigneur, toi qui nous as laissés sous le voile de ce Sanctissime Sacrement, la présence réelle de ta passion et de ta croix, accorde à tous ceux qui te vénèrent, t'adorent et te contemplent sous les voiles de ce sublime sacrement de pouvoir recueillir tous les fruits de la rédemption. Donc, tous ceux qui te. On dit bien, la présence réelle, je porte avec moi, dans ce custode, la présence réelle, le mémorial de la passion et de la croix de Jésus. C'est Jésus, mais dans la présence réelle, sa passion et sa croix que je porte quand même. ne veux pas le mettre dans un tiroir. Pas le mettre dans la poche. Je le mets tout près de mon cœur. Je le mets dans le creux de ma main, c'est-à-dire je le confie au Père, comme Saint Tarcissus. T'es pas prêt, Saint Tarcissus. Mais je suis uni. L'arche d'alliance qui a recueilli le dépôt, qui a présenté l'Eucharistie, c'est cette custode, vous voyez, c'est le cœur de Marie que cette custode représente. Et donc il y a un lien entre le cœur de Marie qui recueille et cette présence réelle de la passion de la croix de Jésus. Je porte avec moi. C'est par la foi et la charité que ça porte le pain vivant descendu du ciel à un malade. C'est pas uniquement pour montrer que je fais partie des Jézabel de la paroisse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, pardon, vous arrivez avec ça. En plus, vous avez reçu la délégation du prêtre. Le prêtre, vous a, en principe, béni et donné délégation. Et donc, votre main est le prolongement de la main du prêtre par délégation. Par substitution, par suppléance. Pas de manière définitive, parce que vous n'êtes pas prêtre, mais de manière transitoire pour l'acte que vous allez opérer. Ça roule ? Bon. Puis après, vous arrivez chez le malade, vous développez, vous allumez une lumière, toujours, c'est sacrement une lumière, une bougie. Vous dévoilez un corporal, vous déposez la custode sur le corporal. Vous adorez avec la malade le Saint-Sacrement. Vous dites le Notre Père, je confesse à Dieu, enfin il y a un rituel. Vous savez bien. Vous dites l'évangile toujours, vous dites le credo, et l'Agnus Dei. Et ni le malade, ni vous, vous n'êtes obligé à bien dire la vérité. Ni le malade, ni vous, vous êtes obligé de mettre vos doigts sur le corps eucharistique du Seigneur. Personne ne vous y oblige. Qui vous a obligé à mettre les doigts? Personne ne vous a obligé à mettre les doigts. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. Bon, moi, ce que je dis aux personnes, je leur dis, écoutez, vous mettez... placer comme on faisait d'ailleurs, comme on faisait dans le rite extraordinaire. L'avantage du rite extraordinaire, c'est comment on ne fait pas d'erreur. On mettait le voile blanc sur les mains. Hein? Rappelez de ça. On mettait le voile blanc sur les mains. On mettait le voile blanc. Ben, on mettait le voile blanc sur les mains du malade. On ouvrait la custode et on déposait l'Eucharistie sur le voile blanc. Et le malade, c'est comme nous. Oui ou non? Hein? Et puis après, on attend un peu, on fait l'action de grâce, ensemble, on espère recevoir la bénédiction finale du prêtre selon le mec qui s'est dévenant du ciel, de l'ange de Dieu, et on s'en va. On laisse le malade avec Jésus.
Est-ce qu'on peut prolonger notre...
Mais ceci étant, vous ignorez tout ça, personne ne vous l'a jamais dit. Ah, mais moi j'ouvre la custode, je prends Jésus hostie, et je lui donne Jésus au malade. Pour cet instant-là, vous avez délégation. Ah, pas de problème. Il y a quand même un problème. Mais enfin, vous ne le savez pas. Par contre, si vous êtes à la messe, il y a sacrifice eucharistique de la messe. Il y a toute la paroisse. Le curé, il dit, moi, j'ai pas envie de passer 20 minutes à donner la communion. Il faut que dès là, il vienne m'aider à donner la communion. Comme ça, au lieu de 20 minutes, ça durera un peu moins de 20 minutes. Donc, je vais demander à 4 personnes, bon, de venir auprès de l'autel, de recevoir la communion. Moi, je vous dis ce qui est normal, de recevoir la communion. Voilà, de recevoir la communion. Éventuellement, de communier au précieux sang. La coupe, éventuellement. Et de recevoir la bénédiction pour donner la communion. Donc, pour l'instant de la communion, il y a 10 mains du prêtre à cause de cette délégation, de cette suppléance. Alors effectivement, ceux qui donnent la communion vont donner la communion. Ça n'autorise pas les gens qui communient à la prendre sur la main, puisque ah, c'est des laïcs, ils le prennent bien dans la main. Ils ont reçu une délégation et le prolongement du sacerdoce pour des cas de nécessité. Saint Narcissus tout de même n'était pas prêtre, hein. Bon, il faut faire preuve de subtilité, d'humilité, de délicatesse, d'obéissance, je ne sais pas comment dire, hein. Hein, pour ça, c'est des choses de détails, oui. Mais vous savez, souvent les détails sont révélateurs, parce qu'à force d'oublier les détails, pour les petites choses, le Seigneur ne peut plus nous en confier des grandes. C'est les petites choses qu'on voit si le Seigneur peut nous confier des choses grandes. Mais moi, je ne dis pas que c'était. Mais ceci étant, je veux dire, il n'y a pas de péché, je ne crois pas, moi, que lorsqu'on a reçu une délégation, on a donné la communion. Mais c'est quand même pas ce que veut, quand même. Ce n'est pas ce que. Je crois que la Sainte Vierge ne le ferait pas. La Sainte Vierge ne le ferait pas, parce qu'elle sait très bien, elle, qu'elle n'est pas prêtre. Saint François d'Assise le dit. Le fait de toucher les espèces avec les doigts consacrés, réservés aux prêtres ordonnés seuls. Saint François d'Assise. Et lui, il savait ce qu'il disait, puisqu'il n'était pas prêtre. Donc, il n'a jamais donné la communion. Alors, on peut dire, moi je suis au-dessus de Saint François d'Assise. Ça, c'est vous. Libre à ceux qui désirent être au-dessus de Saint-François d'Assise, d'être au-dessus de Saint-François. Je ne sais pas, mais j'en sais rien, je sais pas, j'avoue que je ne sais pas, mais il me semble que peut-être, enfin, je ne sais pas, à vous de voir.
Donc, il ne vaut mieux pas y aller.
Comment ça, il ne faut pas y aller? Il n'y a pas
aller où ça?
Pourquoi pas aller communier?
Quand tout est comme ça.
Non, je viens de vous expliquer au contraire que quand on est en pleine célébration eucharistique, car c'est le sacrifice de la messe, Jésus prêtre est présent à travers le prêtre. Donc s'il donne délégation, c'est que ceux qui donnent la communion ont le pouvoir de donner la communion au titre du sacerdoce présent. Donc vous pouvez communier, mais vous ne communiez pas sur la main.
Le calice,
s'il vous plaît.
Comme on fait boire au calice.
Mais vous ne touchez pas le précieux sang avec vos mains. Hein, quand même. Ah ben, de prendre une hostie, de tremper dans le précieux sang, c'est strictement interdit. Par le droit, la pratique de l'Église, strictement interdit. Bon, ça c'est des questions de discipline, c'est pas très profond. Hein.
Vous disiez l'autre jour que jusqu'à la sixième demeure, on n'avait pas la possibilité de savoir si en face de nous ça venait de Dieu ou si c'était le malin qui nous trompait.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, vous savez, faites attention après, quand on sera aux heures du sixième saut de l'Apocalypse, ça ne suffira pas d'avoir son centre de gravité dans la cinquième demeure. Il faudra vraiment avoir son centre de gravité dans l'union transformante parfaite d'amour. Hein, la septième et septième demeure, sixième et septième demeure. Tant qu'on n'est pas dans la demeure du mariage spirituel accompli, septième demeure, hein, eh bien, il y a encore une possibilité de glisser et de ne pas obtenir la persévérance finale. Ce sera le cas de l'Antichrist. Voilà ce que j'ai dit. Donc, ne vous croyez pas assuré de votre salut tant que vous n'êtes que dans la sixième demeure. Pourtant, la sixième demeure, c'est pas la messe. Du point de vue du comble de la sainteté, la sixième demeure, c'est inouï. Je sais, en sans vouloir nommer certaines personnes qui passent dans les médias ces derniers temps, n'est-ce pas, qui ont été très 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 loin dans l'union transformante de la sainteté chrétienne et catholique, on voit qu'ils ont dérapé de manière abominable. La précédente. Hein. On n'a jamais cru. Moi, c'était des très grands amis à moi. C'est impensable. Tant que vous n'êtes pas, c'est ce que disait Père Garrigou. Merci Père Garrigou. C'est tant que vous n'êtes pas dans la septième demeure, vous n'êtes pas assuré de votre salut. Celui qui n'est pas arrivé au comble de la septième demeure ne peut pas aller au ciel. Eh oui, donc attention, ça ne veut pas dire qu'il va en enfer, mais il ira où ? Ben, il ira au purgatoire. Parce qu'au purgatoire, au moins, il ira au-delà de l'union illuminative, dans l'union parfaite, et dans son comble, dans le parvis, jusqu'à ce voile qui sépare de la grâce de charité à l'infinité avec la lumière de gloire qui va être déposée et qui va transformer sa vision pour voir Dieu face à face. Donc attention, hein, vous voyez, je n'ai pas dit tout à fait ce que vous avez dit, je dis autre chose, je dis attention, la persévérance, on n'est jamais assuré, et c'est pour ça qu'on dit, quand on dit je vous salue Marie, je vous signale, perdez de rien, faites-y attention, de temps en temps, priez pour nous, maintenant, et à l'heure de notre mort, parce que c'est à l'heure de notre mort que Marie est là, pour que dans l'heure de notre mort, il y ait ce passage, si on l'a vraiment désiré, demandé, voulu, de l'état dans lequel on est, d'imperfection, à l'état du comble de la septième demeure. Parce qu'elle supplie à tout, Marie. À l'heure de notre mort. Et tant qu'on n'a pas cette grâce, comme dit saint Thomas d'Aquin, de persévérance finale, qui est une grâce beaucoup plus grande que toutes les grâces que vous avez reçues depuis le début de votre conception jusqu'à votre mort, avec tous les actes héroïques de charité surnaturelle que vous avez opérés dans toute votre vie, cette grâce-là est plus forte, plus importante, plus grande, plus sublime, plus divine que toutes les autres grâces. Donc s'il n'y avait qu'une seule grâce que vous deviez demander dans votre vie, c'est celle-là.
Mais elle est sur les horizons, je crois, justement.
Ah, mais bien sûr, les horizons de Sainte-Brigitte, vous voulez dire. Oh, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les horizons de Sainte-Brigitte, bien sûr. C'est une manière, du point de vue de la dévotion, les horizons de Sainte-Brigitte sont certainement un sommet. Du point de vue de la dévotion. Et les promesses qui sont attachées par le pouvoir des clés de l'Église sont le sommet des promesses du pouvoir des clés de l'Église à un fidèle de la terre.
Donc c'est un grand cadeau, finalement.
Ah ben c'est un cadeau total, oui. Et puis en plus, au ciel, vous êtes assuré d'être au sommet de hiérarchie séraphique. Il n'y a aucun ange qui peut être avant qui a une gloire sublime de vision béatifique et de vision ad intra et d'extra dans la vision du face-à-face du Père plus grand que vous. Je ne sais pas si tu vois, vu ce qu'on a eu ce matin. Vous faites les horizons de Sainte-Brigitte tous les jours, hein, tous les jours. J'ai bien les horizons, les 15 horizons, pas les 7 patères, machin, ça c'est pas les mêmes promesses. Hein. C'est pas les mêmes promesses. Moi je parle des 15 horizons de Sainte-Brigitte. Vous allez sur le site catholicitude.net et si vous trouvez ça très fatigant, vous avez ça en vidéo. 30 minutes. Les horizons de Sainte-Brigitte en vidéo. Vous dites les horizons de Sainte-Brigitte en vidéo. Tous les jours. Un vrai délice. Parce qu'à un moment donné, le dixième, la plupart des gens qui font les horizons de Sainte-Brigitte, que je connais, ils lâchent. En général, vers le onzième mois. Pourquoi ? Parce que quand on fait les horizons, vu les promesses qui s'y trouvent, les purifications correspondantes à ce qu'opère et qu'on promet, après le Saint-Esprit, la Vierge et le Christ et l'Église dans ses promesses font que il faut bien sûr qu'il y ait des purifications correspondantes, purification de la mémoire, purification de la vie. Donc il vous arrive de ces purifications, alors vous lâchez prise. Donc si vous n'y prenez pas garde, si vous n'êtes pas prévenu, vous lâchez, vous arrêtez.
Mais
Mais si vous voulez, tous les jours, pendant 365 jours, sans rater un seul jour, vous êtes assuré. C'est vrai, vous êtes assuré. Qu'il y a eu une mission invisible du Verbe de Dieu et du Saint-Esprit dans votre âme pendant ces 365 jours, qui font que vous êtes dans la main de Marie pour l'instant dernier. Et pour la vie éternelle, dans le cœur suprême séraphique des anges. Aucun saint ne sera au-dessus de vous. Aucun saint ne sera au-dessus de vous. Il sera dans les demeures. Il y a bien sûr la Vierge au-dessus de vous. Ça, je pense qu'on est sans doute très au-dessus de vous. Je veux bien, mais on sera dans les demeures séraphiques quand même. On ne sera pas dans les demeures chérubiques, ni dans les demeures de saintes glorieuses, ni dans les demeures des vertus glorieuses, ni dans les demeures de passivité glorieuse, ni dans les demeures des archanges. Non, non, on sera dans les demeures séraphiques. Celles qui sont inscrites dans la seconde procession d'amour, de spiration. Dis-nous, jamais un pouvoir décrit de l'Église n'a opéré un tel trésor à un fidèle. Jamais, il n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu, en tout cas. Bon, j'ai peut-être pas tout vu, mais j'ai jamais vu ça. Alors, c'est bien, si vous avez du mal à faire oraison, je vous l'ai déjà dit, dites, allez, ça va, je vais faire les oraisons de Sainte-Brigitte. Parce qu'au moins, je suis assuré de passer à l'union illuminative. C'est une des promesses, il y a 22 promesses. Hein. Celui qui fait les oraisons de Sainte-Brigitte est assuré à la fin de l'année d'être inscrit dans son centre de gravité, dans l'union illuminative. Donc, passage de la 4e à la 5e demeure, l'union illuminative. Et s'il est déjà dans l'union illuminative, il va passer à la 6e. C'est pas ça, l'union du mariage spirituel, c'est beau ça.
Alors, si on fait deux ans, on sera aussi.
Ah oui.
Alors, pour
si tu le fais pendant 7 ans, t'es sûr d'être à la 7e demeure. Avant l'heure de la séance finale. Très bien. Oui. Bon, attention, on est d'accord, on ne fait pas de la petite cuisine. Parce que, vous voyez, c'est tout intérieur en même temps. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est fort, mais il faut faire attention avec les sacramentaux et avec la dévotion, parce que après, moi je connais, on a fait des pèlerinages à Garabandal pendant des années, avec une femme remarquable, une apôtre de la Vierge du Mont Carmel, une amie intime de Conchita de Garabandal, une fille. Mais vraiment merveilleuse. Elle a donné le scapulaire du Mont Carmel. Elle a expliqué. Elle a amené des milliers de gens comme ça. Elle a parlé avec les évêques. Elle a les dossiers, tout ça. Grâce à elle, qu'à Saint-Enter à Rome, etc. Garabandal a été, non pas reconnu, mais tout ça s'est ouvert. Et elle était quelqu'un, hein, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, Christiane est extraordinaire, c'est vraiment, voilà. Et puis, elle disait, moi, j'ai le scapulaire du Mont Carmel, donc le samedi après ma mort, je sors du purgatoire. Je dis, Christiane, vous savez, à vous, arrêtez. C'est pas parce que vous portez un scapulaire que le samedi. Si, c'est la promesse de la Sainte Vierge. Ah, on porte un scapulaire, d'accord. Ok. Mais c'est si vous êtes dans les conditions requises. Si vous êtes dans les conditions requises. Ah oui, mais c'est quoi les conditions requises? Gardez la chasteté de sa mère. La virginité du cœur. Vous êtes sûr que vous avez gardé la virginité? Porter scapulaire, bien sûr, très bien. Faire l'office de l'union avec Dieu dans le cœur de Marie chaque jour. Être en état de grâce, quand même. Vivre des sacrements. Renoncer quand même au péché mortel. Au moins en intention. Et c'est pas parce que je suis mouru avec le scapulaire que du coup le samedi d'après je vais au ciel. Mais non, c'est... Non. C'est terrible, hein, vous voyez. C'est pour faire oraison, le scapulaire du Mont Carmel. C'est pour faire oraison, vous êtes protégé par Marie pour garder, c'est un sacramental où Marie vous demande, du coup, de rentrer dans son cœur pour faire oraison à sa manière, avec elle, tous les jours. Ça, les conditions requises. Et Christiane, c'était une active, c'était une... Et puis, il fallait qu'elle aide son fils. Hein. Je préfère pas préciser. Alors du coup, c'est vrai que les prix du car étaient à peu près 2 à 3 fois plus chers que le normal. Mais, on lui dit, mais moi je disais, elle est décédée, donc je peux en parler, c'est pas un secret. C'est, elle est très contente que j'en parle comme ça. Après, quand quelqu'un est mort, c'est pas un secret. Ça peut se communiquer à des gens à qui on a confiance, parce que du coup, c'est de la charité, c'est pour qu'on puisse prier, aider. Donc, mais normalement, vous devriez restituer tout cet argent. Il faudrait restituer, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Enfin. C'est une dette que vous avez. Ah, ça, par exemple, pas question. C'est la meilleure, celle-là. Ah bon? Ben, il y a encore un peu à toi. Et son fils a dit, moi, je ne fais célébrer aucune messe pour ma mère. Pourquoi? Ben, parce qu'elle a l'escapulaire, donc elle est au ciel. Attention, donc, attention, les sacramentaux, c'est en fonction de la foi et avec les dispositions requises. Les oraisons de Brigitte aussi, hein. Ah, attendez, si vous dites, voilà, moi j'ai dit les oraisons de Brigitte, alors, là, il faut aller vite, taillot.
Très bien.
Je suis assuré, c'est à quelles conditions requises quand même. Donc c'est pas parce que vous avez scapulé le Mont Carmel que le samedi après vous êtes au ciel. Attention, il faut quand même avoir renoncé au péché. Hein? Renoncer au péché, demander pardon et dire, mais c'est vrai, c'est un péché grave finalement que j'ai fait, je te demande pardon, je sais pas comment faire pour réparer, je vais demander, je sais pas, à l'église comment il faut faire pour réparer, pour demander pardon, pour être libéré, hein, de mes péchés, c'est le 6e, le 7e, le 8e commandement de Dieu. Avant ma mort, il y a un mensonge qui est en moi, et non, je ne dormirai pas, je ne livrerai pas ce mensonge. Je le garde, vous rendez compte, c'est la honte. Tu meurs avec le mensonge, mais le mensonge, c'est une matière grave. Hein.
Il y a M. Rosier, oui, c'est Mme Rosier, oui. Son mari, enfin la maître de Dosa, il avait les oraisons.
Oui.
Personnellement. Et le mari de Saint-Denis, il était dans son lit de mort, claque, la fenêtre s'est ouverte, le mari allait chercher son homme.
Oui.
C'est malédux, quoi.
Mais tous ceux qui ont fait les oraisons de Brigitte, on les a vus le visage voir la Vierge, voir le ciel, et puis du coup c'est ça qui a emporté leur vie hors de leur corps, donc ils n'ont pas connu la mort. Tous ceux que j'ai vus faire les oraisons de Dieu sont partis sans connaître la mort. Ils ont vu qu'ils étaient morts après leur mort. C'est ce qu'a dit Jésus, celui qui me connaît, celui qui a foi en moi, ne connaîtra pas la mort.
Les sept paternostères, c'est écrit qu'on peut demander à ce que 3 âmes de notre famille soient en état de grâce sanctifiée.
Ah oui, mais ça, c'est fait partie des 22 promesses.
Oui, mais ça veut dire en état de grâce sanctifiée. Même s'ils n'ont pas leur foi, ils sont préservés.
Mais c'est pas dit quand. C'est pas dit quand. C'est pas dit qui.
Si, c'est 3. Au choix. 3 au choix. Donc on peut choisir.
Ah non, c'est pas marqué 3 au choix. Désolé. Pas marqué de forme. Non.
Les sept paternostères,
certain de son choix, voilà. Et l'autre,
trois
il y a âmes. Moins dans la lignée que les 15 horizons, mais il y en a.
Les promesses sont
très similaires.
Trois âmes au choix seront tenues en état de grâce sanctifiante.
Oui, mais il ne s'est pas dit. C'est
non,
pas
c'est
dit.
Pas marqué au choix.
Non.
Si,
oui, mais faut faire attention. Il faut faire attention parce que moi, il faut prendre le texte original. Parce que faites attention à ce que vous avez dans votre. Faites attention. Moi, je vous affirme, c'est pas au choix. Prenez le texte original de Sainte Brigitte, de son vivant. Hein? D'accord? Faites attention. Ça dépend qui, ça dépend de Dieu, ça dépend pas de vous, et c'est, il ne vous est pas dit qui ni quand. Bon, ça c'est autre chose, c'est les dévotions. Permettez que je vous dise autre chose que de rentrer dans l'histoire des dévotions. Hein. Parce que l'histoire des dévotions, comme vous venez de l'entendre, ben, y a des gens qui ont foutu leur vie en l'air en s'appuyant sur des dévotions.
Il y a écrit, je conserverai l'état de grâce.
Non, mais je viens de vous dire, ça ne m'intéresse pas.
Mais c'est vous qui m'avez donné.
Oui, mais je veux dire que ça, ce texte-là, ne m'intéresse pas. Je viens de vous dire que ce texte-là ne m'intéresse pas. Faire attention.
Si on peut le retrouver,
ça peut. Moi, personnellement, je suis là pour. Vous êtes le prêtre, quand vous êtes face à un prêtre, il n'est pas là pour vous enseigner des dévotions. Parce qu'on ne fait pas un cours d'hindouisme. La dévotion, c'est égalité avec le Vajravajita. Le prêtre, il est là pour donner la doctrine infaillible, spirituelle, surnaturelle de l'Église. Munus docenti. Munus sanctificanti. Munus. Gouvernante. S'il y a des dévotions, c'est très bien, ça peut aider. Ça peut aider le côté psychique qui est en nous, le côté dévotion, ce besoin affectif de se sentir en sécurité, tout ce que vous voulez.
C'est fatigant une dévotion.
En plus, c'est fatigant. En plus, c'est fatigant. Mais l'Église elle, va vous dire très bien. Prenez les dévotions, il y a même des promesses pour vous aider à garder l'espérance. Et l'Église utilise le pouvoir des clés sur ces dévotions, d'accord. Mais le munus, mais pourquoi la dévotion, par exemple, de Sainte Brigitte est intéressante? Parce que les promesses vous indiquent que c'est oraison qu'il faut faire. Et que oraison qu'il faut faire, c'est-à-dire rentrer dans l'acceptation, de donner du temps chaque jour. Et à un moment donné, forcément, si vous faites les oraisons de Sainte Brigitte, forcément, je vous explique pourquoi l'Église peut, à la rigueur, enseigner les oraisons de Sainte Brigitte, qui est quand même une dévotion. C'est parce que si vous les dites tous les jours, forcément, arrivé au 10e ou 12e mois, que vous les disiez pas, ça revient au même du point de vue de l'effort surnaturel, spirituel, du silence de votre âme, que si vous les dites. Parce que c'est les mêmes purifications de la mémoire. Et que si vous lâchez les oraisons au bout du 12e mois, vous les lâchez, et vous donnez encore les 20 minutes, vous êtes dans l'union transformante. Au fond, c'est une manière d'aider les gens fragiles. À faire la préparation lointaine à l'oraison, sur une longue durée. Et c'est parce que c'est pour une entrée dans le silence, dans ce silence.
Mais c'est très beau quand on les peut aussi en faisant l'oraison.
Et l'Église et Jésus nous demandent toujours, lorsque vous célébrez le sacrifice de la. Le sacrifice victimal du Christ, c'est ça les oraisons. Vous offrez l'offrande victimale d'amour éternel du Christ à travers ses propres paroles au Père. Et il vous est demandé de faire ça au prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Il demandait quoi? Quand vous célébrez le sacrifice de la messe, pensez ce que vous dites. Vivez ce que vous contemplez. Contemplez ce que vous faites. in persona Christi, dans la personne du Christ. Et quand vous faites les oraisons de Sainte Brigitte, si vous ne le faites pas en pensant ce que vous dites, en actuant ce que vous dites, et que ce soit la personne du Christ qui l'actue à travers vous, vous ne pouvez pas aller au bout des oraisons de Sainte Brigitte. Sauf en faisant une blague. C'est-à-dire sans vivre les conditions requises. D'accord ? Parce qu'on ne fait pas les oraisons de Brigitte comme une blague. Donc l'Église, elle enseigne, oui, les oraisons de Brigitte, mais avec les conditions requises. Avec la foi, avec la grâce surnaturelle, avec la contemplation, dans l'union avec Jésus. Et oraison, c'est-à-dire en vivant ce silence eucharistique du Christ. Dans les oraisons de Sainte Brigitte, on peut utiliser les oraisons de Sainte Brigitte, tout à fait, puisque en plus c'est Jésus qui a dicté les paroles en question, n'est-ce pas ? C'est vraiment l'introduction parfaite à l'oraison. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire les oraisons de Sainte Brigitte pendant 20 minutes, et puis un quart d'heure d'oraison transformante. Là, je peux vous dire qu'au bout d'un an, c'est pas à le passage à la 4-5e demeure que vous allez arriver. Vous serez forcément à la 6e demeure. Mais l'Église, elle vous enseigne la vie surnaturelle. Et c'est une manière surnaturelle qu'on doit dépasser, sans les mépriser, les dévotions.
Et les sept patères, qu'est-ce qu'ils apportent de plus à vos horizons ?
Écoutez, là, je ne peux pas vous dire, parce que je vais vous dire, je ne sais pas tout. Et sur les dévotions, je connais très peu de choses. Je sais, la seule chose que je sache, c'est que je n'ai pas un capital de vie suffisant pour m'occuper de toutes les dévotions. C'est la seule chose que je sache. Et que le capital de vie qui m'est demandé parce que je suis baptisé, c'est de vivre la vie surnaturelle, théologale, et de la doctrine infaillible de l'Église. Là, je dois y passer beaucoup de temps. Et le temps que je passe aux dévotions, c'est le temps perdu pour lequel je ne vis pas de la transformation divine, de la doctrine surnaturelle infaillible venant du ciel, dans le corps mystique de l'Église. Et c'est pour ça que je vous affirme que c'est vrai. Je n'ai jamais lu ce qu'il y a dans les sept patères. Donc je ne sais pas.
Oui, mais dans le PP1, PP2, PP3, vous nous dites bien, si on fait la couronne d'anges, la couronne des anges, un chapelet, la miséricorde divine, et le quatrième, c'est ce qu'on dit, les corps unis, on a trois ans de purification.
Chapelet de Saint-Michel.
C'est écrit dans le PP1, PP2, PP3.
Oui, mais je ne dis pas que... peut-être, je ne m'en souviens pas, mais... Je ne m'en souviens pas, je te promets, je ne m'en souviens pas. Mais je ne sais pas que c'est marqué dans le PP1, mais c'est possible. C'est possible. Pourquoi pas, il y a des exercices, c'est ça, en pneumatose
naturelle. Oui, oui, c'est un jour, vous nous avez dit ça, en disant que si on faisait les quatre... Et puis il y avait une parole dans le PP1, là, il fallait dire une prière, je ne sais plus la lettre, ça enlève 3 ans de purification.
Ça m'étonne beaucoup. Tu me retrouveras la page, d'accord ? Non. Pas tout de suite. Hein,
Oui.
Tu me retrouveras la page.
Non, ça m'étonne beaucoup. Moi, je me disais, moi, comme ça, je vais avancer.
Non, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne étrangement. La seule chose que je me rappelle avoir dit, moi, et c'est pas ça. Je me rappelle avoir dit quelque chose qui me paraît très, très intéressant. Parce que Jésus, quand même, est là pour nous aider.
Oui.
Jésus ne nous laisse pas. Jésus sait qu'on a besoin. Qui nous parle même dans le monde d'aujourd'hui. Ça va ? Et que, c'est vrai, Jésus a dit à quelqu'un du style Marthe ou autre, bon, que si vous recevez la communion 9 fois de suite, c'est ça, je pense. Si vous recevez la communion eucharistique 9 fois de suite, qu'au moment où vous communiez pour que Jésus soit le roi. Le Seigneur est le roi de toutes les nations et de tous les peuples. Et que vous communiez pour ça, en l'honneur de Jésus, roi de toutes les multitudes des peuples, et vous faites 9 fois de suite, alors vous recevez donc la présence jusqu'à votre mort et sans doute après, mais en tout cas, en plus de votre ange gardien, d'un ange de chacune des nerfs hiérarchies angéliques. Et que c'est important, moi j'avais pensé que c'était bien, à titre de dévotion, pour aider à ce qu'on soit attentif au miracle des trois éléments. Et qu'on ne fasse rien sans l'union totale avec Marie, avec le monde angélique tout entier, et le sacrifice et l'amour victimal royal de Jésus. Et que ça, cette neuvaine de communion, m'oblige à ouvrir mon regard spirituel, mon âme, mon esprit, au moins une fois dans ma vie, en fait, que je sois en communion avec les archanges, avec les vertus, avec les puissances, avec les dominations, avec les séraphins, avec les chérubins. Et en plus de mon ange gardien, je vais donc avoir un ange qui est dans la vision béatifique, qui va me porter sur ses mains, de chacune des hiérarchies angéliques, 9 hiérarchies. C'est bien que toutes les attaques de l'Antichrist, avec tous les démons de l'enfer qui vont venir bousculer, renverser, arracher à la grâce tous les fidèles, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est marqué dans l'Apocalypse, il vient s'attaquer, il ne peut plus s'attaquer à la femme, parce qu'elle est partie dans le désert, alors du coup il s'attaque à la descendance, à ceux qui respectent ses commandements. Tous les démons de l'enfer sont sur eux. Et tous les démons de l'enfer, c'est quoi? C'est toutes les hiérarchies déçues. Il y a des archanges déçus, des anges déçus, des dominations déçues, des trônes déçus, il y a toute une hiérarchie. Alors oui, si vous êtes avec, si des anges des hiérarchies qui elles sont pas déçues mais au contraire glorifiées dans la vision béatifique sont là à travers vous dans le sacerdoce victimal de Jésus, roi de toutes les nations, que vous en prenez conscience, les démons des hiérarchies déçues, ils peuvent toujours vous attaquer. Hein. C'est comme si vous receviez une balle de ping-pong dans un mur de béton. Et donc moi ça me plaît. Ça me plaît parce que sur le plan de la foi, de l'espérance, de l'amour, de l'union, de l'un et de l'autre, eh bien, il y a la communion. Donc, total, on a un du monde angélique glorieux, du monde divin glorieux, et de la foi de Marie en vous, puisque c'est la foi de l'Église tout entière en vous, en un. Et c'est pour ça que la neuvaine de communion, je trouve que c'est une dévotion qui est pas seulement agréable, comment dire, plaisante, c'est quelque chose, c'est une porte d'entrée surnaturellement à quelque chose d'important sur le plan théologal quant à l'attention, à la vision et à notre manière de voir comment notre foi doit s'exercer. Le prêtre de l'Église est obligé de vous dire ce qui amène au mariage spirituel surnaturel. Il ne méprise pas les dévotions, mais il montre que les dévotions sont là pour nous aider à aller dans le sens où les dévotions nous envoient, dans le fruit des sacrements. Et toute la monosocialité de l'Église, c'est pour ça que vous trouverez des prêtres qui disent, écoutez, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de me casser les pieds avec cette dévotion, plus cette dévotion, plus cette dévotion, plus cette dévotion, plus cette dévotion. Je vous en supplie, stop.
Mais comme la plupart, ils n'expliquent pas leur raison, alors...
Non, mais il faut comprendre.
Oui, aucun qui nous dit, aucun, j'en ai entendu aucun par vous, qui nous avait parlé de leur raison.
Mais c'est bien sûr que si.
Est-ce que vous entendez un prêtre parler de leur raison?
Bien sûr que si. Bien sûr que si, nous les prêtres, on enseigne qu'il faut prier.
Si vous bénissez les messes qu'on a eues avant, on arrivera à 9 le vendredi matin. On
ne
peut pas faire comme ça?
Non.
Parce que cette nuit, elle était quand même pour l'hiver.
Non, mais vous ne l'avez pas fait.
Bon,
c'est quand vous recevez.
Là, c'était bon.
Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion. Quand le Saint-Esprit vous le dira, je vais peut-être faire ma neuvaine de communion pour que Jésus soit le roi d'amour qui règne sur toutes les multitudes des peuples. Et au moment où la communion... C'est pour cela que je vis cette communion. Et je le ferai 9 fois de suite. Je peux faire cette neuvaine de communion pour mon fils. Je peux le faire pour un vivant à sa place. Il recevra la présence angélique, glorieuse, qui porte un service en dehors de certains. C'est vrai, il y a quelque chose, moi j'aime bien ça, parce que, qu'est-ce que vous voulez, on est quand même préoccupé de sa fille, de son petit-fils, de son neveu, de son ami, de son époux, je ne sais pas. Jésus nous aide. L'Église ne dit pas non, à condition que ce soit selon les conditions requises, c'est-à-dire que ce soit dans la foi, dans l'espérance,
ah oui, c'est ça. Oui.
Et dans la charité. Et donc, qu'on aboutisse finalement à ce que cette dévotion indique, ce qu'elle n'est pas, mais ce qu'elle indique. Elle indique l'union transformante.
La Sainte Vierge dit quand même de prier pour Dieu.
Est-ce que ça va?
Neuvaine, ça veut dire 9 jours de suite. Hein. C'est pas un grand espace.
9 communions de suite. 9 communions de
suite. Ah, voilà, mais c'est pas forcément 9 jours de suite.
Si, c'est 9 jours de suite. C'est 9 jours.
Non, mais si jamais, par exemple, il y a 2 jours, on ne peut pas. C'est pas 9 communions de suite. Par exemple, à 2 jours d'intervalle. Non, c'est 9 jours de suite.
Parce que vous avez communié à ce moment-là une fois. Puis dans 10 ans, une deuxième fois.
Deux jours après.
C'est une neuvaine. Une neuvaine, c'est 9 jours. Bon, je suis très désolé, je suis très attristé. Savoir que la question que vous posez se porte uniquement sur les dévotions. Vous voyez, comme quoi. Quand on rentre ensemble, en présence du ciel et de ce qu'il donne à l'Église, ça fait quand même soulever un petit peu, peut-être pas beaucoup, mais un petit peu, et monter à la surface quelques inquiétudes. Alléluia! Comme ça que ces inquiétudes sortent de nous. Au moins, nous ne nous habiterons plus. Et puis, portons notre attention sur des paroles qui ne sont pas inutiles. Et il faut quand même essayer de voir au moins une fois dans sa vie contemplative ce qui se passe à l'intérieur de Jésus. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Immaculée Conception. Qui se passe à l'intérieur de l'union des deux, ce qui se passe à l'intérieur du cœur de Jésus, Marie, Joseph de la résurrection, tandis que nous célébrons, nous, la messe sur la terre. Il faut que nous soyons attentifs et que nous puissions percevoir surnaturellement sous le sceau du Saint-Esprit, par l'esprit de sagesse, la saveur de la lumière, en disant « Ah, mais bien sûr, bizarre, je ne l'avais jamais vu ça, je le vois, oh, c'est vraiment extraordinaire. » Sous le sceau de l'esprit d'intelligence, de la pureté, d'une clarté évidente, on voit ce qui se passe. Dans l'unique blessure du cœur de Jésus-Marie-Joseph rempli de gloire, à chaque fois que nous célébrons la messe dans le fruit du sacrement de l'Eucharistie, ce qui se passe en eux, comme immense bouleversement, alors qu'ils sont dans la résurrection, parce qu'eux aussi se soumettent à la foi de l'Église militante pour l'ouverture des sceaux. Il ne faut quand même pas oublier une chose, le monde angélique lui-même dépend de l'Église des derniers. Pour l'accroissement, la plénitude et l'accomplissement de leur gloire, intraverbalement et extraverbalement. La création elle-même, tout entière, vous l'avez entendu souvent, aspire de toutes ses forces à la révélation des enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu, c'est ceux qui vivent de l'union transformante dans le sacrifice immaculé, victimal d'amour éternel de l'Eucharistie, par la foi. Et allant jusqu'à l'extrême de l'accomplissement dans une plénitude reçue de ce que cela signifie, puisque c'est un signe, c'est un sacrement. Ils permettent au Christ, là où il est, d'assumer cette augmentation de charité dans la foi surnaturelle parfaite de l'Église pour opérer une purification de toute matière, de tout corps, de tout temps, de tout lieu, et de tout être, et de toute substance. Et on se rapproche, vous savez, ce sera, par exemple, vous voyez, à un moment donné, on le sait pour prendre un seul exemple. Il y a combien de, allez, disons, 500, 800, 900 milliards d'êtres humains qui ont vécu sur la Terre depuis un temps, supposons, je ne sais pas. Quand même, donc 90%, enfin non, 97% qui sont morts, n'est-ce pas? Où est leur corps? Leur corps est dans la terre. Leur corps est corruptible. Il n'est pas dans l'incorruptible. À part Jésus, Marie, Joseph, et certainement Yohanan. La corruptibilité du corps de l'homme n'est pas établie pour aucun d'entre eux. Mais leur corps est en attente. Si sur tous ces centaines de milliards, il y en a, je l'espère, la majorité qui sont déjà au ciel de la vision béatifique, leur âme est entièrement immergée dans la lumière de gloire de la résurrection. Leur âme est entièrement ressuscitée, mais leur corps ne l'est pas encore. Ils dépendent donc, ils sont sous la dépendance de la foi de l'Église militante, du 5e sceau et du 6e sceau de l'Apocalypse, pour que, par une foi toujours plus ardente dans la supervenue du Saint-Esprit et l'ovambration du Père, on est toujours au-delà du voile, de la vision béatifique dans la paternité incrédule, pour que le Verbe de Dieu, à travers sa résurrection, à travers le cœur immaculé de Marie, glorifie Jésus, Marie, Joseph et le sacerdoce unique de l'Église apocalyptique, puisse produire une purification de la matière lumineuse, de la manière formée, de la matière non formée, de la matière corruptible, de la matière incorruptible. Et à un moment donné, à travers le corps du Christ, mais tout le corps corruptible d'Adam, de Jérémie, de David, d'Abraham, de Saint Dominique, de Saint François d'Assise, de Sainte Bernadette, bon, Sainte Bernadette, je ne devrais pas dire ça, c'est pour d'autres raisons, mais même des saints qui sont au ciel. Leur corps appartient au corps du Christ. Et donc à chaque fois que l'amour arrive jusqu'à l'advenue du corps spirituel venu d'en haut, engendré, grâce à la foi de l'Église, du 5e sceau et 6e sceau de l'Apocalypse, le 6e sceau de l'Apocalypse, la fécondité sponsale peut produire jusqu'au corps spirituel dans tous les corps corruptibles qui attendent cette purification, cette mise en place de leur corps spirituel, pour qu'il soit de plus en plus en affinité avec la résurrection. Et donc l'heure de la résurrection universelle de la chair, de toute chair, dépend bien de la prière de l'Église, de la foi. Vous n'avez jamais pensé à ça, par exemple. On a autorité, vraiment, sur la vie et sur la mort. Les saints attendent au ciel Saint François, mais aussi les anges de Dieu qui sont dans la vision béatifique. C'est ce qu'expliquait le cardinal Journet à propos du monde angélique, qui sont dans la gloire. Mais ils doivent passer vraiment par le mystère de l'incarnation pour rentrer dans la gloire de la béatitude de leur propre espèce glorieuse, angélique, dans le mystère de la intraverbo, pour avoir une plénitude dans leur gloire angélique intime à eux, dans l'intimité de l'unité avec toutes les gloires angéliques spécifiques de la glorification de toutes les espèces spirituelles. Et pour ça, c'est de plus en plus. Et à chaque fois que l'Église avance dans une charité plus grande, plus intense, de plus en plus en affinité avec le cœur d'amour glorifié de Jésus, Marie, Joseph, au fur et à mesure, les anges peuvent pénétrer dans cette gloire intraverbale qui leur est réservée, in specie, en leur espèce, en communion avec toutes les autres espèces glorifiées. Donc les anges eux-mêmes, par exemple, les anges sont dans la vision béatifique avant la création du monde. On l'a déjà bien vu, n'est-ce pas? Puisque les autres sont déchus, mais ceux-là, ils sont dans la vision béatifique, la lumière de gloire, il n'y a pas de problème. Mais il est bien évident que quand Jésus apparaît dans le sein de Marie, ils peuvent s'engolfer, si je puis dire, dans le mystère de l'incarnation, pour recevoir une gloire accidentelle beaucoup plus intense que celle qu'ils avaient avant, dans leur gloire à travers vous. Et donc l'augmentation de la gloire angélique est gigantesque, si je puis dire. On dit accidentel, mais ce n'est pas accidentel, parce que ça touche la gloire de leur espèce, mais parce que c'est accidentel par rapport à la gloire de Dieu lui-même, on est d'accord. Mais c'est quand même pour eux formidable. Donc quand Jésus meurt sur la croix, et quand l'offrande victimale de Marie, Jésus et Joseph fait une seule offrande victimale, et qu'elle permet la toute-puissance de Dieu d'opérer la résurrection, et donc d'opérer potentiellement toute la résurrection de la chair, les anges peuvent pénétrer aussi dans le corps mystique de Jésus, substantiellement, hypostatiquement, si je peux dire, dans le côté hypostatique, cette union hypostatique déchirée et ouverte. Et donc il y a un accroissement à chaque fois que Marie fait un acte de foi qui est supervenu. Les anges dépendent d'elle pour une gloire accidentelle toujours. Ils ont soif. Toute la création aspire de toutes ses forces à ce que Marie fasse un acte de foi à nouveau. Voilà ce qui s'est passé dans toute la vie de Marie. De toutes ses forces, dans la création, il y a le monde angélique. Je vous signale que les anges, ça fait partie de la création. Aspire de toutes ses forces à un acte de foi héroïque des membres vivants de l'Église du Dieu vivant sur la terre. Une fois qu'on est au ciel, vous ne pouvez plus faire un seul acte de foi, puisque vous ne pouvez pas croire à celui que vous voyez face à face. Parce que voir, croire à celui que vous voyez, ce n'est pas la foi. Vous ne pouvez plus espérer, vous ne pouvez plus espérer, puisque vous avez déjà la totalité de l'objet de l'espérance. Vous ne pouvez plus augmenter l'intensité de votre charité surnaturelle, puisque vous êtes fixé dans votre degré de charité surnaturelle méritoire. Alors les saints n'ont plus qu'une seule aspiration, vous voyez, peut-être une des interprétations des pères de l'Église sur l'Évangile d'aujourd'hui. J'impose les mains à l'aveugle, d'abord sur la tête, puis après sur les yeux. D'abord sur la tête, les saints qui sont scellés dans la vision béatifique, d'accord, ils voient l'arbre de vie de Dieu. Face à face, ils le voient, c'est clair qu'ils le voient. Mais ce n'est pas avec la netteté de l'union totale, substantielle du corps, de l'âme et de l'esprit ressuscité et glorifié, de manière séraphique en Dieu. Donc ils aspirent de toute leur force à ce qu'il y ait l'imposition sur les yeux du corps. Et ça dépend de la foi, du corps mystique de l'Église tout entière. C'est la fécondité de l'Église du 5e, 6e, sol d'Apocalypse, qui permet ça. Et c'est qui? Les saints des derniers temps de l'Église du 5e, sol et 6e, sol d'Apocalypse. Est-ce que ce sera dans 200 ans? Est-ce que ce sera dans... Allez, je vais être sympa. Est-ce que ce sera après notre mort, 150 ans? À votre avis. Moi, je vous dis, c'est dans quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'une chose est sûre. Moi, j'en suis certain. Pourquoi? Parce que la trompette a sonné quand même. C'est là, c'est, on ne peut pas dire l'ange Gabriel s'est foiré et il s'est trompé. L'écriture ne se trompe pas. L'ange Gabriel a dit au prophète Daniel, et c'est en hébreu, dans le texte, que dès lors que Sikoussi, le sommet, sera établi, c'est que c'est la génération du jour du Seigneur et de la parousie. Et alors, il suffit de faire l'exégèse littérale du texte, en hébreu, puis c'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ça vient pas de moi, ça vient pas d'une idée fixe, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est le texte de la révélation de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a donné le mystère de l'incarnation et le mystère du temps. C'est les deux fonctions de l'ange Gabriel à notre terre. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc, ça pour moi, c'est incontournable. Et je n'ai jamais vu personne depuis 15 ans, 17 ans qu'on a manifesté ce texte à, publiquement, partout. Personne. Vous croyez-moi que quand c'est possible, tout de suite, ça me vient. Personne n'a pu remettre en question ce qui est écrit dans l'écriture, dans ce texte. Personne. Alors, je m'excuse, mais je ne pense pas que l'ange Gabriel se soit trompé. Je ne pense pas que Jésus se soit trompé. Parce que trois fois dans l'évangile, on l'interroge sur la parousie. Il dit plein de choses. Il y a plus de 120 versets. Même plus que ça, je crois. Je parle pour les trois premiers évangiles. 120 versets. Ah, il parle de la guerre, etc. Mais quand ils sont coincés, mais les apôtres n'expriment pas, c'est quand? Alors Jésus, à ce moment-là, dit, ah, ça, prophète Daniel. Seule précision que Jésus a donnée dans l'évangile, c'est sur ce passage, lorsqu'a prié le prophète Daniel. Quand il était à 12 ans, dans le temple de Jérusalem, et qu'il parlait avec les docteurs de la loi, paraît-il, il y avait Hillel, le fameux Hillel, le dernier nazi d'Israël. Il était à peine plus âgé que son quasi-fils, Simeon Anassi. Mais Simeon Anassi était déjà mort, semble-t-il. Il était mort tout de suite après la présentation de Jésus au temple. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? De quoi parlait-il pendant trois jours? C'est Nachi d'Israël qui était dans le temple. Il parlait du prophète Daniel. Et du temple. De l'agneau. Mais ça, c'est pas dans l'évangile. Mais dans l'évangile, il y a des choses qui montrent que ça parlait bien du temps. Et de l'agneau. Et du temple. Et du Père. Ça, l'évangile dit ça. Alors, je m'excuse, mais la conjonction des quatre, c'est Shikusim et Shemem. Si vous savez ce que c'est que le Shikusim et Shemem, c'est ça. En tout cas, quand les apôtres disent, mais alors c'est quoi? Alors il dit, voilà, ça c'est le prophète Daniel. Que celui qui lit intégrise ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Écrit. Dans le prophète Daniel. Pour comprendre quel est le lieu de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ça c'est dans l'évangile, c'est la bouche de Jésus, vous pouvez le lire vous-même. Donc Jésus dit, si vraiment vous voulez savoir l'heure, la génération du temps, du jour du Seigneur et de la parousie du Seigneur pour l'Église et mon Église, ben voilà, voyez ce qui est écrit. pour intelliger, pour comprendre et saisir quel est le lieu dans lequel l'humanité va opérer l'abomination de la désolation. Quel est le lieu qui appartient à Dieu seul, et l'instant qui appartient, le temps qui appartient à Dieu seul, dans lequel l'humanité va s'introduire, pour arracher l'arbre de vie, pour éventrer la présence créatrice de Dieu, pour faire le sikhousi, mais eux-mêmes, quoi. Donc Jésus, il dit, impérativement, il demande qu'on regarde l'écriture, c'est pour Daniel, parce que c'est l'ange Gabriel qui a présidé à son incarnation. Donc se lier à son incarnation, il y a une réincarnation du corps mystique du Christ à la parousie. Puisque il y aura après, dès lors qu'il y a l'ouverture de la parousie, forcément il y a Dieu le corps mystique de Jésus, il y a une participation à la fécondité dans le corps spirituel venu d'en haut, dans notre corps originel, et donc cette fois-ci le corps participe va participer accidentellement, substantiellement, après, dites-le comme vous voulez, mais réellement en tout cas, à la puissance de fécondité de l'Église par la foi. La création toute entière aspire de toutes ses forces à ce que on dévoile en nous l'au-delà de nos inquiétudes et qu'on laisse tomber nos inquiétudes et qu'on ne prenne que la quiétude de Dieu pour qu'il y ait l'opération divine qui se fasse. Alors, assez, fini avec ces inquiétudes. Que les dévotions soient derrière vous pour vous porter, mais surtout pas devant vous pour les faire. Vous voyez, je veux dire, pour les suivre. On ne suit pas des dévotions. On est porté, d'accord, encouragé, d'accord, mais on ne les regarde pas. Et on fait ce que Dieu veut. Alors, est-ce que ce sera dans 200 ans? Je m'excuse. Le 8 mars 2005, ce n'est pas dans 200 ans. C'est derrière nous. Ah oui, mais ça, bon... C'est rien... Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Ça n'est pas rien. Quand même. Ça, c'est pas rien. Ça n'est pas rien. L'Église, c'est son unité de communion qui fait. Satan n'a plus aucun pouvoir sur l'humanité. L'Église qui fait un signe de division, sacramentellement parlant dans la communion, est la source de toutes les unités de l'humanité tout entière en Dieu. Opère les portes brèches ouvertes où l'enfer peut s'envahir, l'humanité tout entière dans le méchant. La chose est faite. C'est évident. Même les sociologues sont d'accord pour dire que c'est terminé. Pour l'Église catholique. Terminé. Sur le plan scientifique de la sociologie, n'est-ce pas ? L'Église catholique, c'est terminé. Mais il y a Gédéon. Il y a le fruit des sacrements. Le fruit des sacrements, c'est dans l'oraison qui vient de fleurir et s'épanouir de la cinquième à la sixième demeure, jusqu'à d'ailleurs l'accomplissement. Et ça, le sociologue n'est pas capable de le voir. L'autorité de l'Église est supérieure à tout. C'est une autorité d'amour. toutes les forces spirituelles, même glorieuses, aspirent, et je dis bien aspirent, par aspiration, à notre raison, dans le cinquième saut d'Apocalypse, de toute leur force. Mais pas seulement les anges. Ceux qui sont au ciel, Saint-François, aspirent de toute leur force. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre, bien sûr. Et ils prient pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas pour nous, ils nous soutiennent dans la présence glorieuse. Et ils aspirent de toute leur force, mais c'est par spiration. Hein. Et ils nous soutiennent pour que l'attraction en nous soit très, 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 très forte. Pour que le Père nous assume et nous traverse des fontaines de sa déité dans la cinquième demeure. Que du coup, on soit tellement traversé par les fraternalités dans notre nature que notre nature individuelle n'existe plus, qui reste plus que la nature universelle de l'humanité de Jésus, entier et vivant. Et que du coup, à ce moment-là, il y a la possibilité de tous les torrents et flux, reflux de la grâce, d'opérer les grandes transformations, les grands événements, les grandes préparations, les grandes purifications, partout, toujours, en tout lieu, et en toute espèce, spirituelle, substantielle et accidentelle de tout. Et c'est dans les fruits du sacrement, comme l'a expliqué Saint-Père dans ses deux premières encycliques, cette charité-là, transformante du mariage d'amour, que se réalise l'œuvre de l'Église. Les deux premières encycliques de Benoît XVI, c'est pour dire ça. Ah, moi je vais à la messe, hein, j'ai communié, le Royaume des Nations. Oui, le pape vous dit oui, il ne dit pas non. Mais il n'a jamais dit n'allez pas à la messe, ne communiez pas. Il n'a jamais dit ça. Il a dit l'essentiel, là où on vous attend, c'est dans le fruit. C'est qu'il y a le mariage d'amour total accompli de l'Église finale, de la charité absolue. Dans son accomplissement d'amour, maintenant, une demi-heure, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Passage de la Jérusalem glorieuse à la Jérusalem spirituelle. Et cette unité devient lumineuse et vivante, et je me consacre à cette unité, tout se réalise, ce flux, ce reflux. Je me consacre à cette unité lumineuse et vivante, de l'épouser, de l'unité lumineuse et vivante, et de l'Église du ciel et de la terre, de l'unique Église, de l'unique épousée. Et l'épouser, c'est le Verbe de Dieu. Mais avec toute la Jérusalem glorieuse, toute la Jérusalem spirituelle, Et là, je me consacre, je m'engloutis. Vous vous rendez compte, le silence parfait de désir substantiel, infini, absolu et incréé de cette unité vivante de l'Église qui s'incarne dans le temps de mon oraison. Et si je fais un mouvement individuel, personnel, en disant bon, attends, je vais en rajouter un peu. Ça y est, je ne suis plus dans cette unité, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'oraison, c'est quand même un acte d'humilité substantielle, d'obéissance substantielle, de virginité substantielle d'amour, qui dure et qui permet au sacrement de réaliser ce qu'il signifie autant sur le ciel, dans le ciel, à travers le ciel que dans la terre. Et à ce moment-là, à un moment donné, vous verrez, après le cinquième saut de l'Apocalypse, c'est sûr, puisqu'il y a déjà aujourd'hui hein, la mise en place du corps spirituel. On a Sainte Bernadette, par exemple, et on est la preuve qu'elle a anticipé, parce que la Vierge l'a expliqué comment il fallait faire pour vivre du cinquième et sixième saut de l'Apocalypse avec Saint Joseph. C'est ça le secret de Lourdes. On en a déjà parlé, je crois. C'est pour ça que c'est... Nous opérons à ce moment-là, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur tout le corps mystique vivant de ceux qui sont au ciel, sur leur corps qui attend dans la terre, le corps d'Adam, vous vous rendez compte, à un moment donné, ce flux, ce reflux dans le corps, dans tous les membres du corps des saints, va opérer la mise en place du corps spirituel dans leur corps corruptible, corrompu d'ailleurs. Ce qui va permettre à un moment donné à Dieu de prendre de cette purification, de la mise en place du corps spirituel de la terre toute entière, de quoi faire que ce corps corruptible de chacun des saints se rôtisse dans le corps spirituel venu d'en haut, dans ses ligaments, dans ses fonctions, dans ses formes, dans ses substances, dans ses perfections, et qu'il soit de plus en plus en affinité avec le corps spirituel de résurrection. Les saints aspirent de toute leur force à la révélation des fils de Dieu du cinquième sceau et du sixième sceau de l'Apocalypse. Nous ne sommes pas là pour rien. Je veux dire, on n'est pas là, si vous voulez, pour sur la terre, aujourd'hui, en l'an 2012 à 17, puisque voilà, hein, c'est 3 ans et demi, il faudra compter. On n'est pas là pour rien. Et on a été comprendre que nous avons été, comprendre que nous sommes établis par Dieu dans ce temps, c'est important. Et de dire oui, c'est important aussi. De dire je suis pauvre, alléluia. Je ne suis pas capable, alléluia. Si tu me dis je suis capable, je suis très inquiet. Mais me voici, oui. Pour faire ta volonté, fiat. La super venue du Saint-Esprit, la bombardation du Père, de toute l'Église à travers ce que je vis dans la cinquième demeure. Il faut apprendre ça, hein, que Marie est le modèle de notre foi. Si vous faites un acte de foi en communion avec tout le corps mystique vivant de l'Église de Jésus vivant, sans qu'il y ait de manière surnaturellement contemplative et mystique actuelle, parfaitement, enfin, peut-être pas parfaitement, mais consciente en tout cas, cette super venue du Saint-Esprit, cette embrombation de Pierre pour que vous alliez tout à fait au-delà, mystère de la résurrection de Jésus, Marie, Joseph, dans le Père, là où le Verbe de Dieu va pouvoir recréer à partir de la résurrection de Jésus et de son corps mystique, eucharistique et fruit des sacrements à travers vous, quelque chose de nouveau. Si vous n'avez pas compris que c'est ça la foi, eh bien vous avez perdu 3 jours ici. C'est que vous êtes revenu pour rien. Parce qu'il faut quand même, au minimum, apprendre comment on fait un acte de foi, surnaturel, théologal, divin, mystique, réel, actuel, transsubstantiel, transactuel, transglorifié. Pour correspondre à l'appel de Dieu et à l'appel de toutes ses forces, de tout le monde glorieux en Jésus, tout le monde glorieux des saints. Hein? Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est une interprétation qui serait. Moi, mais c'est vrai, il impose d'abord les mains, Jésus, à l'aveugle, puis après sur les yeux. D'abord la salive, puis après la position des mains sur les yeux. C'est extraordinaire ça. Les saints qui sont au ciel, bien sûr, ils voient. Ils ont la lumière de gloire, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Leur corps n'est pas ressuscité. Hein. Donc, ce n'est pas dans l'unité substantielle de leur personne. Hein. Donc, la clarté et la netteté absolue n'y est pas. Hein.
Il s'y prend à 2 fois.
Et c'est pourquoi il s'y prend à 2 fois. Avec sa Pentecôte et son sacerdoce victimal éternel d'amour comme prêtre éternel, il leur donne la vision béatifique dans leur âme. Et avec Marie et l'Église accomplie du 5e et 6e sceau de l'Apocalypse, il leur donnera la vision béatifique dans toute la clarté. La création aspire de toutes ses forces à la révélation de l'Église du 5e sceau de l'Apocalypse.
Quand ça va arriver dans quelques semaines,
oui.
Est-ce qu'on aura un petit signe? Est-ce que vous savez si on verra un signe?
Est-ce qu'il y aura un petit. Oui. Nous sommes alertés. On n'arrête pas d'avoir des signes.
Que là, c'est maintenant, quoi. C'est imminent.
Je vous l'ai déjà dit. C'est un signe. Il y a des signes qui nous viennent de la Vierge qui a parlé à un village.
Oui.
Ce signe, je vous l'ai dit, mais ça c'est un secret. Ça ne se dit pas. Voilà, quand le pape reviendra de Moscou, on y est. J'en sais rien, quand est-ce qu'il va revenir de Moscou.
Il
n'est pas encore à Moscou.
Il y a une voyante à Poutine qui doit le dire une semaine avant.
Non, non, ce sera après l'avertissement, ça. C'est pas un grand miracle, ça. Une chose est sûre, c'est que la Vierge, la Sainte Vierge a dit à la petite Conchita qui est gentille, vous ne pouvez pas savoir, elle est gentille. Elle est gentille. Elle est toute simple. C'est...
Et même s'il réussit son accord avec les Russes.
C'est, pas, personne n'a dit est-ce qu'il a employé du papier Kraft, est-ce qu'il a employé une photocopieuse Canon pour faire la liturgie. Non, tout ça n'est pas précisé. C'est dans les paroles qui sont dites. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Alors on ne va pas faire sortir nos inquiétudes avant l'invention de paroles inutiles. Donc, quand le pape reviendra de Moscou, les événements. Il y aura des gens qui écoutent. Là, on est arrivé. On est arrivé. Voilà. Voilà. Donc, il ne restera pas beaucoup de jours. Là, cette fois-ci, ça se comptera plus qu'en heure maintenant. Hein. Parce que maintenant, ça se compte en semaines. Mais à ce moment-là, ça ne comptera plus en heure. On comptera à part avec les heures. Donc, il faut se prolonger. Mais... Voilà. Donc, ça.
Pour l'avertissement.
Oui, l'avertissement, c'est l'ouverture du cinquième sens.
Oui, c'est ça. Mais après,
c'est ça. Et après, le grand miracle.
Il se produira un grand événement dans l'Église, tel qu'il ne s'est jamais produit depuis des générations. Et quand ce sera produit, le pape, justement, à son sera revenu de Moscou, enfin de. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je ne peux pas vous dire plus que j'en sais. Moi, c'est pas moi qui vais vous inventer des trucs. Hein. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous inventer des trucs.
Excusez-moi, bon. Vous avez dit hier, vous avez bien dit que le pape devait, c'était prévu qu'au mois de juillet.
Ah, mais ça, ils avaient prévu qu'il aille en Ukraine, puis finalement, c'est repoussé au mois de septembre. Bon. Et en Ukraine. C'est pas Moscou. Mais parce qu'il y a entre nous, les orthodoxes et l'église du couchant et l'église du levant, il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à prier ensemble dans une unique liturgie, si je puis dire. Hein? Bon. Et en particulier, il y a l'existence de l'église uniate d'Ukraine. Ça va? Donc c'est pour ça qu'il va en Ukraine. Donc ça fait partie du pèlerinage vers l'œcuménisme de l'Église du Levant et de l'Orient. Mais c'est évident que dès que l'unité se fera avec ça, ça va laver quelque part quelque chose dans la déchirure de l'unique couture qui s'est opérée dans le Shikus Meshum de 1970. Il y aura une brèche qui va se faire dans cette brèche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et du coup, nous pourrons nous infiltrer, nous blottir, nous engloutir dans cette brèche pour rentrer dans l'unité de la succession apostolique, du sacrifice immaculé, du sacerdoce éternel, de l'offrande victimale d'amour éternel du Christ, dans le fruit des sacrements de toute l'Église, de tous les successeurs des apôtres. Et à ce moment-là, ceux qui prennent autorité de cette manière-là peuvent obtenir du ciel qu'à la place du génocide mondial de l'humanité, il y ait le génocide mondial de l'oubli de Dieu. Et c'est en raison de notre désir, de notre foi, de notre autorité royale, que effectivement, avec Marie, Joseph, Jésus, nous pourrons obtenir dans le Saint-Père, dans le cœur du Saint-Père, l'ouverture du ciel, l'ouverture des temps, l'ouverture du cœur immaculé de Marie, dans le cœur de l'Église d'aujourd'hui. Et c'est là que s'opérera l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Et l'heure de l'Église sera donc là, arrivée. Ce sera notre heure. Les soldats de Gédéon vont boucler la guerre de l'Armageddon avec des cruches et des torches à cause de la trompette. Et personne ne peut s'y attendre. Mais nous, non seulement on s'y attend, mais on le sait. On sait quand, on sait comment, et on sait que c'est gagné. Alléluia. Mais, on est d'accord, il faut être fidèle.
Pourquoi ça va durer de très peu de temps ?
20 minutes.
Mais pourquoi les autres vont reprendre le pouvoir ?
Mais ils ne vont pas reprendre le
pouvoir. Non.
Doucement, doucement. Si. Mais non. Saint Paul, priez pour nous. Mais non. L'Antichrist. Mais non, l'humanité va pouvoir retrouver sa liberté dans son union avec le Père et pouvoir librement dépasser, traverser l'opacité invincible du méchant homme. Le méchant homme sera toujours là. Le Christ l'a dit, le méchant homme est inscrit jusqu'à la fin du monde. Quand il y aura Jigouzi Meshomem, dont a parlé le prophète Daniel, le Meshom, alors les apôtres disent, mais quand ce sera ? Jésus répond à la question des apôtres, quand ? Il a répondu, oui, quand ? Ça veut dire, à quel moment ? Hein, c'est dans le temps, quand ? C'est pas comment, c'est pas pourquoi, c'est dans ce quand ? Et Jésus répond, là où est le corps. Là se précipite les vautours. Donc il répond à la question du temps, il répond par le lieu. Parce que dans la prophétie de Daniel, le lieu et le temps sont un dans le Jigouzi Meshomem. Et le lieu, Jésus dit donc que c'est le corps qui est le lieu. Et le corps, le corps, un hé devant mes fesses. Le corps, c'est là où le corps de l'homme est tout à fait lui-même, puisqu'il est dans l'un. Il est le corps. C'est quand Dieu est dans l'un avec ce corps qu'il est en train de créer, dans la perfection intérieure du corps spirituel, sa liberté du don, dans le principe, c'est le corps primordial. Eh bien, le temps, c'est quand l'humanité sera. Quand les vautours, tous les démons seront dans le lieu du sanctuaire du corps. Donc il a bien dit, lui, à sa manière, Jésus, que ce serait quand les vautours, c'est-à-dire les démons et leurs affités, vont vouloir se réfugier, se précipiter dans le corps.
Donc ça veut dire que c'est maintenant.
Je vous signale quand même que c'est quand même au niveau mondial légalisé officiellement, universellement, etc., dans toutes les nations depuis 8 mars 2005 grâce à la France. D'accord ? Voilà. Bon. Que nous, l'Église de France a joué un rôle très important dans cette décision. Pas envie de rentrer dans les détails parce que ça m'écœure un peu. Et parce que je connais personne en plus. Donc j'en suis désolé. C'est de la désolation, c'est normal. Et c'est au-dessus de nos moyens de réparer. On ne peut pas réparer. Jésus a dit, cette méchante, ce sera jusqu'à la fin du monde. Il y aura une désolation telle qu'il n'y en aura jamais eu, Jésus a dit. telle qu'elle n'a jamais eu depuis la fondation du monde jusqu'à cet instant, et telle qu'il n'en aura jamais plus jusqu'à la fin du monde.
Donc on ne pourra jamais m'arrêter.
Oui, mais par contre, on aura une liberté à l'ouverture du cinquième jour de l'Apocalypse. Tous les hommes, sans exception, auront une liberté nouvelle, recréée par Dieu, avec une possibilité libre, lumineuse, volontaire, d'amour, de se donner avec la maîtrise parfaite de leur corps originel pour traverser l'opacité invincible du méchaume dans une nouvelle fécondité catholique de la Jérusalem spirituelle unie à la Jérusalem céleste dans l'unique flux et reflux de la mise en place du corps spirituel venu d'en haut pour le mettre en affinité avec notre corps originel retrouvé librement. Vous pensez bien quand même que les hommes ne seront pas si bêtes que de rester volontairement, collectivement, englué dans le méchaume. Parce que quand même, la clarté se sera faite, quand même, pendant 20 minutes. Ah, peut-être, au bout d'un certain temps, où l'oubli spirituel, pourrait devenir total. Il faut 10 ans pour la mise en place du corps spirituel, pour le renouvellement de la mémoire du corps. Déjà sur le plan biologique, mais quand c'est le corps originel, il répond aux lois de la nature du corps. Et du corps spirituel, il y a 10 ans aussi, ensuite, pour sa transformation, pour sa divinisation, pour sa spiritualisation, et son affinité avec le corps de résurrection. Donc, à mon avis, moi, d'après ce que je crois, me semble-t-il, en tant que théologien et philosophe, je peux vous dire que l'oubli total de cette liberté, cette maîtrise de soi, ne peut pas se faire, il faut 20 ans. Ce sont ces 20 ans qui seront mis à profit au bout de 20 ans, je suppose, par l'Antichrist, c'est ce que je suppose. Parce que, bon Dieu, il donne quelque chose, mais vous savez, il donne de très 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 grandes grâces, et puis 20 ans après, tu dis, c'est loin quand même cette histoire. Moi, j'ai reçu des très très grandes grâces il y a 20 ans, c'était quand, en 1900. Voilà, moi j'ai reçu des très grandes grâces, très bien, en 1989, très bien. Ça fait 20 ans, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Si je n'ai pas exploité dans l'augmentation de la charité, dans l'augmentation de la grâce, la grâce ne diminue pas la sanction, mais elle doit augmenter avec les missions invisibles des personnes divines dans notre âme. À chaque fois qu'il y a une mission invisible des personnes divines dans notre âme, elle augmente. Un chrétien qui ne voit pas augmenter la grâce sanctifiante dans une journée de sa vie, c'est un apostat après la cinquième demeure. Et c'est pour ça qu'il n'y a que dans l'oraison qu'il peut y avoir une mission invisible du Saint-Esprit dans notre âme. Mais on peut très bien faire oraison tout en étant entièrement donné au service des malades, pendant qu'on les aime, et que le Christ en eux et le Christ en nous font un seul Christ, une seule lumière victimale d'amour, et on peut rester une demi-heure comme ça, suspendu dans ce service des malades. Et à ce moment-là, il y a une mission invisible du Saint-Esprit dans notre âme, et une augmentation de la grâce dans la charité héroïque qui s'accomplit ainsi, parce qu'on peut très bien rendre un service de charité surnaturelle et héroïque dans l'oraison. L'oraison n'empêche pas du tout l'union transformante dans la charité héroïque. Mais en tout cas, l'oraison est le lieu primordial de la mission invisible des personnes divines dans notre âme. Si on est suspendu dans la ferveur, comme ça, plus de 10 minutes, vous êtes sûr qu'il y a une augmentation de la sainteté en vous. Et si à un jour de votre vie, où cette grâce sanctifiante n'augmente pas, c'est que cette journée est une journée apostasique. Et là, nous sommes dans la crainte de Dieu parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une onde d'apostasie en nous, dans notre vie. D'accord ? Est-ce que c'est très facile pour vous à comprendre ? Et moi, j'aimerais énormément que vous vous endormiez ce soir, demain soir, après-demain soir, en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais voir la manière intérieur qui s'est réalisé quand il y a eu une supervenue du Saint-Esprit en Marie, l'embrassement du Père qui fait qu'elle a été arrachée, assumée par la très sainte Trinité au-delà de son oui, et qu'à travers la foi, le Verbe de Dieu a, dans son sein, a réalisé ce qu'il a fait lorsqu'il a posé les mains à l'aveugle. Comment est-ce que c'est passé? Est-ce que je pourrais pas faire dans l'horizon demain quelque chose de semblable, quelque chose m'unir dans l'unité vivante, lumineuse avec elle, dans ce même acte de foi, cette même supervenue du Saint-Esprit en elle, cette même obéissance pour la réalisation de l'incarnation, de cette manifestation universelle d'amour dans la création de la vision béatifique, de la lumière de gloire dans toute l'humanité, grâce à elle. Si je pouvais vivre ça avec elle, voir ça avec elle, vivre comme elle, en elle, transsubstancier en elle, qu'il n'y ait plus qu'elle, et que je fasse, que cet acte de foi se fasse, moi et elle, en un, et dans l'au-delà de l'unité des deux. Si je pouvais, dans l'horizon de demain, le soir, vous demander ça, si je pouvais voir ça, que l'esprit de sagesse, d'intelligence, me fasse voir ça, vivre ça clairement. Je serais très étonné qu'à l'horizon du lendemain, si vous vivez l'horizon de l'incarnation requise, vous n'en fassiez pas l'expérience surnaturelle, sous le souffle du Saint-Esprit. Si vous n'en faites pas l'expérience surnaturelle, contemplative, claire, c'est que vous ne l'avez jamais demandé. Jamais désiré. Mais moi, vous comprenez mon père, le soir quand je m'endors, j'écris un petit mot à Saint-Joseph pour être débarrassé de mes problèmes avec mes voisins. Ah. Très bien, très bien, très très bien. Très bien, très très bien. Le soir, vous écrivez un petit mot au bon Saint-Joseph. Si vous pouviez respirer à l'intérieur de vous, dans l'état dans lequel vous étiez, lorsque Jésus vous a ressuscité dans votre âme, et qu'il a transverbé le cœur de Marie, votre épouse, avec vous dans l'inspiration du Saint-Esprit, est-ce que vous pourriez me montrer quelque chose, de voir ce qui se passait dans votre joie extraordinaire, de cette apparition de l'unité victimale éternelle d'amour dans les trois, Marie et de la croix, vous et Jésus dans la résurrection de votre âme, le Père et le Verbe de Dieu, le Fils et le Père, s'unissant à travers votre unité victimale dans glorieuse ressuscité, pour qu'il y ait l'aspiration, la procession du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église tout entière, dans la foi de Marie, cette supervenue du coup, ce qui est opéré en elle du Saint-Esprit, l'embrassure du Père, à travers votre propre résurrection, vous qui êtes le sacrement du Père, dans l'unité sponsale avec Marie. Ah, vous écrivez ça, hein, d'accord, mot à mot, hein, monsieur. Et dans l'horizon de demain, je voudrais vraiment voir, contempler, vivre sous le sceau du Saint-Esprit d'intelligence. Ah, mais bien sûr.
C'est une des meilleures oraisons qu'on fait si on vit ça, si on a cette grâce-là, mais on ne revient plus. On reste en oraison jusqu'à la fin du monde.
Non. Le Saint-Esprit, c'est des tonnerres, des voix et des éclairs. C'est toujours fulgurant, très puissant. Les éclairs sont fulgurants. Fulgurant. C'est toujours fulgurant, c'est toujours très puissant. Et c'est la présence, c'est les voix. C'est une voix très, une présence très puissante et fulgurante. Il nous suspend à l'intérieur de la supervenue du Saint-Esprit, l'embrassure du Père pour la révélation d'un monde nouveau. Et notre temps d'oraison, l'Apocalypse le dit, il se fait un silence d'un fait pendant une demi-heure pour que l'opération de la parousie, de l'au-delà de la parousie, puisse s'opérer dans la terre et dans l'unité du ciel et de la terre, de l'Église de Jérusalem céleste et de la Jérusalem spirituelle. Dans l'unité, le flux, le reflux. Le soir, vous écrivez un petit mot, puis vous déposez dans la corbeille qui est au pied de Saint-Joseph, chez vous. Plutôt que de mettre Saint-Joseph, j'ai vraiment un problème. fais-moi gagner au tiercé.
Hein?
Saint-Joseph, il lit ça la nuit. Et dit, mon Dieu, le pauvre. Mais s'il lit votre papier, oh, ah, il va le dévorer. Il va être levé. Non, je ne sais pas, mettez-vous à la place de Saint-Joseph.
J'avais parmi les intentions qui ont été mises par écrit à Domanova et que j'ai fait une vue, j'aurais peut-être pas pu le dire. Une fois j'ai lu cette demande, j'ai fait Marie, faites que mon divorce réussisse, c'est une femme, réussisse pour que je puisse rejoindre l'homme que j'aime. Mère Marie, faites que mon divorce réussisse pour que je puisse rejoindre l'homme que j'aime. Donc quoi, vous pouvez présenter la vie.
Moi je dirais que l'homme ne dira rien, mais qu'il fera ce qu'il voudra.
Non, mais ça veut dire, je peux tout, elle peut dire, mais oui, ma chérie, bien sûr, ton premier mariage était invalide de plein droit, tu n'as jamais été marié sacramentellement. Donc c'est aussi bien que tu régularises et que tu te maries sacramentellement à quelqu'un d'autre. Mais va chercher le prêtre d'abord.
Non, c'est pas possible.
Eh oui. Va chercher l'église qui va te dire si oui ou non tu es lié par un sacrement.
Petite question, une toute bête. Quand on parle des personnes qui sont en terre, pour celles qui se font là au four, c'est pareil?
Je m'excuse, je n'ai pas compris. À l'incinération. Mon Dieu. Jésus a dit, laissez les morts enterrer la mort.
Mais nous, on s'y réjouit, par exemple.
Mais vous, suivez-moi.
Mais nous, quand on va partir, on demande à aller où ?
L'Église dit, je suis un membre vivant du corps mystique vivant de Jésus vivant. Est-ce que vous imaginez que Jésus dit à Marie, comme testament, dès que vous me descendez sur la croix, mettez-moi au four crématoire. Est-ce que Marie a dit à Jean, dès que tu me verras dans la dormition, au lieu de mettre dans un tombeau, mets mon corps au four crématoire. Je suis dans mon corps un membre vivant du corps mystique vivant, je suis vivant. Donc mon corps appartient à la terre promise. Il doit être déposé dans une terre sainte, consacrée à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une relique. Vous imaginez le Padre Pio, si on l'avait mis au four crématoire, ce serait très ennuyeux. Il y a plein de choses qu'il n'aurait pas pu faire, lui qui déjà de son vivant partait en bilocation partout, avec son corps. Très embêtant. Donc au moment de la béatification, on a ouvert son cercueil, le père Jean, que vous connaissez tous un petit peu, il était là. On a ouvert, et Francisque a ouvert. Et on voulait prendre, bien sûr, une partie de son cœur pour amener au Vatican, quelque chose comme ça, je j'imagine, n'est-ce pas? Donc Padre Pio a dit comment? Non. Donc quand on a ouvert son cercueil, son corps n'y était plus. Du coup, on n'a pas pris une partie, n'est-ce pas? Attends, il partait en bilocation de son vivant, il pouvait partir en bilocation de son vivant. Donc, après on a refermé, quand on a réouvert, son corps était là. Et il y a toujours. Mais s'il avait brûlé. Nous, on est sanctifiés par la grâce. Vous recevez l'Eucharistie, oui ou non? L'Eucharistie vous assume en lui, oui ou non? Vous êtes le corps du Christ, oui ou non? Alors votre corps appartient à l'Église. Et il est à la disposition. Et il est, j'allais dire, un, dans ses récepteurs. Oui, la même, quand un corps est enterré dans la terre, il reste toujours des, même 1000 ans après, il reste encore quelques cellules avec le génome qui est le vôtre et qui est porteur par un fil divin de votre, de tout ce que vous avez reçu surnaturellement dans les sacrements et qui en a garde mémoire dans le fil intérieur. Et l'autre jour, c'était il y a 17 ans, j'ai lu un truc en disant, voilà, on a trouvé un fossile d'abeille qui date de je ne sais plus combien, de 2 milliards d'années, je ne sais plus combien. Il faut se dire qu'ils exagèrent toujours avec les datations. Mais enfin, ils ont sorti un fossile. Donc, le fossile, c'était de la pierre, quoi. Hein. Mais au milieu de la pierre, voyez, il y avait un truc infime. Ouais, c'est impressionnant. Il restait 3-4 cellules de cette abeille. Donc ils ont sorti 3-4 cellules, donc il y avait encore le génome. C'était pas pétrifié, et donc il y avait encore le génome. Ils ont réussi à réanimer une des cellules. Cette cellule, donc, elle était forcément totipotente. Et donc, ils ont réussi à faire que cette cellule se multiplie. C'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire. Tout ça pour dire que le génome, la memoria dei, elle est encore là. Elle est en attente d'être revivifiée. Vous lirez le livre d'Ézéchiel, vous verrez. Non, mais notre corps, ma pauvre amie, notre corps, il pèse aujourd'hui 100 kilos pour moi. Bon, à peu près, un peu plus. Ça dépend des jours. Mais dans 10 ans, ces 100 kilos qui sont là, ils ne seront plus là. Ce sera à nouveau 100 autres kilos de cellules. Donc, sur 100 ans, j'aurai laissé une tonne. Cette tonne de cellules, ça fait quand même 70 milliards. 70 000 milliards de cellules se baladent dans la Terre. Si à la fin, je meurs complètement écrasé et qu'il ne me reste plus que 40 kilos, parce que... et qu'on me paye mon corps dans le four crématoire, je m'en fous. J'ai encore une bonne tonne qui se balade dans la terre. Quelque part, n'est-ce pas? Bon. Donc je m'en fiche, c'est pas ça, on peut brûler le corps de Jeanne d'Arc, mais c'est pas bien, c'est pas respectueux, c'est tout. C'est pas de la charité, parce qu'on aime une personne dans l'unité de son corps, son âme et son esprit. Voilà. Et donc, voilà, on le dépose aussi dans les mains de l'Église. Et à la prière de l'Église, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est tout simple. Donc l'Église concède qu'en cas de nécessité, donc d'épidémie, de sorte absolument très grave, bon, on puisse brûler un corps de quelqu'un après sa mort. Mais elle demande quand même qu'on respecte le corps. D'accord?
Est-ce que ça fait partie d'un mauvais plan aussi, le fait de mettre surtout de...
C'est un très mauvais plan. Oui, c'est un très mauvais plan. Donc l'Église le concède. En cas de nécessité, c'est toujours pareil, en cas de nécessité. Mais normalement, on ne regarde pas ce qui est nécessaire en cas d'accident grave, mais on regarde ce qui est normal. Ce qui est normal. Et Jeanne d'Arc, elle a été brûlée. Mais son cœur, c'est pour bien montrer que Jésus et l'Église ne sont pas d'accord. Son cœur battait encore en vivant. Au milieu de la braise et de la cendre, quand les soldats ont remué la cendre, il y avait un cœur qui battait vivant. C'est le cœur de Jeanne d'Arc. Ils l'ont pris, ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont jeté dans la Seine. Et vous croyez quoi? Jeanne d'Arc, elle s'en fiche. Mais c'est son cœur aussi, son cœur est là. Son cœur. C'est quand même pour montrer quand même que le corps garde toujours du point de vue du cœur quelque chose de vivant, même s'il est mort. Donc on le respecte. Les soldats n'ont pas respecté le cœur vivant du Christ en Jeanne d'Arc. Ils l'ont coupé en morceaux. Ils ont fait quelque chose qui est mal. L'Église leur réprouve. Mais l'Église ne condamne pas, l'Église ne juge pas, l'Église donne la direction. Et à tous ceux qui le peuvent sous le sceau du Saint-Esprit, de rentrer dans l'union parfaite, dans l'union illuminative, et dans la transformation surnaturelle du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, priez Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, soyez bénis. Si vous voulez vous détendre un peu pendant un quart d'heure, nous allons célébrer la messe dans un quart d'heure.